Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 60 du Comic City, épisode mensuel, comme toujours, qui parle des sorties VF. Et donc cette fois-ci, nous sommes beaucoup.
On est pas mal, simplement.
Avec un petit nouveau, enfin petit, je ne sais pas, mais...
1m20, ça va encore.
En tout cas.
On est dans la moyenne, je pense.
Willow.
Donc c'est Ino qui nous a rejoint il y a peu.
Bah oui, puisque 60e épisode, donc tu vois, le nouveau personnage, forcément, pour le 60e numéro.
Pour relancer un petit peu l'intérêt général, l'intrigue.
Ouais. Alors, ça va peut-être relancer de nouvelles connexions entre différentes personnes, et qui sait ce qui pourra arriver.
Oula, de quoi parle-t-il? Mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de connexion entre les personnes?
Il doit parler du cliffhanger de la fin de saison 3.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être suis-je perturbé par ton avatar.
Oui, non, mais...
Parce que pour les gens qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire les auditeurs, eh bien c'est un avatar avec une nana, on va dire avec une forte capacité pulmonaire.
Ah. Et une bière. Grosse bière.
C'est pas une image, hein, c'est vraiment une grosse bière. C'est pas.
Surtout se présente quand même.
Non.
Non mais quand même que je finisse de présenter tout le monde.
Ah bon,
bien
d'accord.
Bien sûr, Mr. Ebony, vous l'avez entendu. Mais nous avons aussi Nono.
Oui, bonjour les enfants.
Ah, c'est Jean-Loup.
Nous avons Sam.
Alors moi je vais dire bonsoir, parce qu'il est tard.
Oui, je ne sais plus quelle heure il est.
10h30.
Il peut dire au revoir aussi si tu peux.
Et nous avons Claire.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Voilà la galanterie, merci, au revoir Claire.
Voilà, non mais comme d'hab, hein, je suis habituée.
Alors si on te laisse commencer, ça va pas. Si on te laisse terminer, ça va pas, excuse-moi. Hein.
Non mais ça va jamais de toute façon, je suis la seule nana, donc de toute façon quoi qu'il arrive, j'ai toujours tort.
Très bien, nous commençons bien ce podcast dans l'humour, la joie et la bonne humeur.
Ouhou.
Ou l'envie de se suicider, ça dépend.
Sam nous donne...
Bon alors attendez. Kino, présentation, tu as une minute pour te présenter.
Wow.
Top.
Donc bonjour, je m'appelle...
Donc pourquoi voulez-vous devenir président?
Très simple. Vous avez vu mon petit bouquin Panini sur la présidentielle 2012? Eh bien, je peux collectionner toutes les autocollants de monsieur le président Sarkozy.
Ouais, les gens comprennent.
C'est bon, c'est fini.
Là, faudra mettre le lien, là, parce que...
Non, ouais. Mais en fait, on n'est pas sous acide, hein. Tout va très bien.
Parle pour toi.
Non, mais se présenter, c'est d'un banal.
Oui.
Il faut participer au podcast.
Tout simplement.
Ah mais t'es pas comme ça en rantaine là, qu'est-ce qui t'arrive là? Non mais là, c'est un peu fou au fait le nouveau là.
Ouais. Non mais c'est que là, ça y est, il a des auditeurs et tout, donc...
Moi je dis plus rien. Okay. Non je déconne, évidemment je continuerai à vous péter les couilles, attendez.
Ça va être incontrôlable.
Okay, complètement. Ça fait tout ça...
Je pense que nous...
en fait, on est connecté et qu'on raconte que des conneries. Donc, oui. Déjà, le sujet nous emballe, mais alors à un point, vous n'imaginez même pas. Donc,
oui, parce que... Claire n'est pas emballée. Nous, on est tous super emballés.
Ah ouais, on est à
carrément.
Fond.
Moi, je suis à gonfle.
Moi, je ne sais même pas de quoi ça parle. Hein.
Sam est tellement à fond qu'il est plongé dans ses notes, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas.
On compte sur toi, Sam, d'ailleurs, pour animer le débat hein, tout à l'heure.
Oui.
Et
donc, alors sûr... aujourd'hui nous allons traiter.
C'est de la merde, de toute façon.
Ouais, écoute, Sam, c'est ça ou on fait un débat Fear Itself?
Non.
Moi je veux bien.
J'en étais sûr.
Ça pourrait être drôle, hein, remarque. Hein.
Moi j'en connais très haut.
C'est bon, je suis réveillé. C'est
bon. Bon, avant de passer au débat, oh là, ça part dans tous les sens, c'est terrible. Nous allons faire comme quelques news, mais pas des news comics.
Non.
Puisqu'on a envie de changer un petit peu cette semaine, ce mois-ci.
Voilà, on va vous annoncer le prochain mercato de la Ligue 1 de football.
Le football russe?
Oui.
Bien sûr.
Oui, tout à fait.
Alors, au Galatasaray de Moscou.
Mais c'est qui connaît en plus?
C'est la seule équipe que je connaisse en Russie.
C'est une équipe qui est achetée par Poutine, hein, qui gère tout.
Non, attends. On va pas donner de nom, on risque d'être fermé. Hein, donc, hop là.
Non, on risque d'être flingué là, carrément.
Ouais, complètement.
Censuré en Russie.
Kino, c'est pas un agent infiltré, la venue d'Europe de l'Est. Déjà, avec son avatar, ça fait très Europe de l'Est, là.
Oui, ouais. C'est vrai. Hein.
La pierre, une nana comme ça, ouais, là, on est à fond dedans, là. Enfin non, enfin bref.
Chacun est à fond où il veut. Voilà. Hein, c'est des paroles malheureuses quoi.
Comme d'habitude avec Monsieur Bunny.
Allez, un petit coup de Gladys et les taches s'évanouissent.
J'aurais dit apparaissent, moi, mais... Bien, quelques petites news donc en provenance de nos vies personnelles, puisque voilà, on va changer.
Alors, et bah donc, oui, qu'avez-vous fait récemment, les gens?
Bah, je suis en train de découvrir Google Plus, qui est très sympa. Oh.
D'accord. Veux-tu nous parler de ton festival?
Ça m'a permis de débuter une nouvelle activité qui était arrêter de dormir, ce qui est très utile pour écrire des articles.
Pour écrire des comics, hein, donc ça y est, on a compris, Sam se lance dans le scénariste.
Ah bah, vu le peu que j'ai dormi, j'aurais pu trouver le temps pour en écrire. Hein.
C'est un festival de quoi?
Festival de Loire, qui était juste sous mes fenêtres.
Normalement,
un festival qui l'empêche en plus de dormir, hein, ce qui est quand même un comble pour le festival de Loire.
Oui, voilà, j'allais la faire, mais bon, je... grillé par la fraîcheur. Ino, as-tu une anecdote à nous faire partager?
Ouais.
Et merci, Ino.
Eh bien, merci.
C'est sympa.
J'ai acheté Authority volume 2, mais je ne l'ai pas encore lu.
Ah bah moi aussi, tiens. J'ai la même anecdote que toi, dis donc.
Je l'ai acheté ce week-end.
Mais moi aussi, dis donc. Non, moi avant, juste avant. Oh putain, c'est passionnant et tout. Il est toujours sur le blister.
Non, j'ai retiré la couverture pour pas l'abîmer. Je l'ai posé. Il est prêt à être lu la prochaine fois que je vais aux toilettes.
Oh, mais c'est
magnifique.
Ça aurait dû être ce soir, mais on m'a dérangé pour faire un podcast.
Ah, donc bien. Tu te retiens, c'est bien.
Je préfère faire un podcast qu'aller faire caca, c'est bien.
Et de lire.
Bon, bien.
Et toi, Benny?
Alors, moi j'ai passé le week-end avec des futurs ex-potes à Europa Park, à la frontière allemande.
Ah oui, c'est que...
Oui, as-tu allé, Nono?
Non, mais je connais.
D'accord. Eh bien, s'il y a des auditeurs qui connaissent, voilà, je les encourage vivement à ne pas faire le Blue Fire, qui est une attraction de ouf, avec looping, etc. Et j'ai cru que j'allais être éjecté pendant près d'une minute et demie de mon siège. Voilà, c'était assez space comme attraction.
Et il y a aussi Space Mountain.
Je vous conseille d'aller voir sur YouTube, vous cherchez Blue Fire, vous verrez une vidéo.
Oui, on trouve facilement en vue subjective de quoi ça a l'air. Et on a l'impression que c'est pire quand on y est, et bah oui, effectivement, c'est catastrophique. Même Al Jordan, il a peur dedans.
Voilà. C'est quand même pas rien.
Hein. Ouais. Et sinon, récemment, j'ai vu un film et c'est la première fois que j'ai failli tourner de l'œil devant un film. C'était 127 heures.
Avec... Ah, je l'ai pas encore regardé.
Oh bah putain, bah, j'espère que tu n'es pas sensible, enfin moi c'était la première fois que ça me faisait cet effet en même temps. J'ai vraiment, au fait, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un, comment dire, d'un mec qui tombe dans un trou. Il se prend un rocher sur le bras, donc il a le bras complètement écrasé et puis pendant des heures, bah, il est coincé là-dedans quoi, avec son bras.
Ah, oui. 127 heures, non?
Ouais, pendant 127 heures, effectivement.
Ouais. Et oui, il finit par se couper le bras à la fin.
Oui, il termine.
Oh, mais ça y est, t'as tout spoilé.
Non, mais c'est une histoire réelle.
Ouais, enfin... connu, donc,
c'est
une histoire réelle, connue. C'est
tellement...
L'Aquaman des neiges.
J'étais tellement dedans, puis en fait, c'est tellement... Il monte quand même vraiment le... Enfin, c'est quand même très graphique. Je m'attendais vraiment...
Je pense qu'il s'est vraiment coupé la main, en fait.
Mais oui, James Poe n'a plus de bras, en fait. Effectivement, ouais. Il s'est vraiment mis à fond dans son rôle. Nous saluons d'ailleurs son professionnalisme. Qu'au boutisme. Enfin, non, enfin maintenant le bout est quand même réduit du coup. Enfin bref. Donc voilà, et j'ai vraiment pendant deux minutes cru que j'allais tourner de l'œil et puis voilà. C'est passionnant tout ça.
Bah non, mais c'est très bien. Ça peut arriver. Hein.
Ah bah moi en tout cas c'était la première fois et pourtant Dieu sait si j'en ai vu des horreurs.
Donc bah on le sait, hein, Bunny a fait sa flippette devant 127 heures.
Ouais, carrément.
Ouais, mais moi j'ai fait le Blue Fire, monsieur.
Jetez-lui des oranges ou n'importe quoi. Merci.
C'est une gueule, il faudra la réutiliser.
C'est vous du vent.
Oui, on voit d'où il sort souvent.
De ma bouche. Claire, une anecdote.
Pour appuyer sur la trompette.
Une anecdote, bah écoute.
Merci beaucoup Claire.
Oui. Non, aujourd'hui on a sauvé un chien. On a trouvé un chien qui était devant chez nous et puis on a fait le toc-toc au voisinage, personne savait où il était, donc on a pris notre bagnole, on a été chez le véto, il a regardé la puce et puis les gens ils ont pu retrouver leur chien, donc voilà, on était un peu genre, on se sentait bien ce soir en se disant, on a retrouvé quand même le chien, ouais voilà, tout à fait.
Il s'appelle comment le chien?
Il s'appelait Bobby.
Non, c'est pourri comme nom de chien.
Mais non, mais c'est vrai. Il s'appelait Bobby. C'était ce nom. C'est pas nous qui avons choisi. Nous, on l'aurait pas appelé comme ça, hein, mais c'était pas notre chien. Donc. Nous, on l'aurait appelé, je sais pas, Gizmo.
Gizmo.
Mais non, on a déjà un qui s'appelle Gizmo. On parle deux Gizmo, t'imagines. Gizmo, t'as les deux qui viennent. Ah, ça peut être pratique.
Ouais, ouais, ou Gremlins, je ne sais pas.
Mogwai.
Donc voilà, oui, bon, c'était sympathique, hein, mais un peu casse-couille.
Ouais, mais bon.
Autre chose à foutre.
Ouais, il y a.
Non, mais en même temps, t'as raconté quand même l'anecdote la plus passionnante, là, je pense.
Bah, je pense, ouais.
C'était trépidant quand même, hein. On a vécu accroché à ces paroles.
Au chien, ouais, là on lui tenait la laisse.
Bobby, on va pas. Non, on part pas comme ça.
Ah mais on aurait pu le faire sur un ton beaucoup plus dramatique, effectivement. On en a vécu des moments, enfin tu sais, c'était comme quand, dans un confessionnal, hein, on était là, on était genre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut l'amener, est-ce qu'il faut pas l'amener, est-ce qu'on le prend chez nous, est-ce qu'on le prend pas. On a eu des choix difficiles, hein.
Alors moi, je tiens tout de suite à dire, je n'aurais jamais pris le chien. Hein. Je ne suis pas zoophile.
On t'a déjà dit, hein, tu fais ce que tu veux.
Voilà. Déjà, t'avais pris des chèvres, Agnor, on le sait tous. Faites une recherche internet, hein, si vous le croyez pas.
Oui, tout à fait.
Arrête, les gens vont tomber sur des trucs.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez quitté Agnor. On va tout déballer de vos vies.
C'est bon, la flippette, hein. Bon, voilà, tout le monde a fait le tour. Tout le monde a raconté sa vie, c'est bon.
Ouais, ouais.
On va donc pouvoir commencer sur le débat passionnant qui s'annonce.
Ah, c'était pas ça le débat ?
Mais non, puisqu'on va maintenant lancer le jingle.
Le débat.
Le débat de ce mois-ci concernera Panini, puisque Panini se retrouve sans licence d'essai à partir du mois de janvier.
Ah bon ?
Et donc, comment vont-ils essayer de s'en sortir, puisque ça leur fait comme un gros trou, notamment avec la perte des licences Vertigo. Alors donc on va analyser un petit peu le programme de ce qu'ils nous ont proposé.
Malheureuse. Oui, non mais ils vont même faire peut-être plus qu'essayer de s'en sortir, ils vont peut-être s'en sortir, qui sait, justement.
On va voir ça tout de suite. Avec donc, première news, un nouveau mensuel, qui s'appellera Avengers, tout simplement. Ouais.
Ah bon, ouais. Avengers, tout comme ça.
Et ouais. Qui, dès le premier numéro, nous proposera Mighty Thor, Captain America, Young Avengers.
J'ai compris Mighty Thor. Enfin,
ça sera plutôt Shadow Crusade. C'est en fait la suite de Young Avengers.
Et c'est très très bon.
Ouais.
Bah moi, c'est vraiment pas un mag qui m'intéresse, quoi. Bah, Mighty Thor.
C'est combien tième mag Avengers ?
Pas le quatrième.
Je suis désolé, mais la rencontre entre Maïté et Thor, j'ai envie de voir.
Ah non, mais Mighty Thor, je l'ai lu, j'ai lu en VO et j'ai décroché au troisième épisode.
Donc, ça a été simple, j'ai décroché au premier. Donc,
ouais. Bah, mais moi, je vais toujours voir le 2, même si j'ai
pas lu. Moi, j'ai décroché au 0, puisque je l'ai pas lu.
Ah, bah, Attraction, hein.
Bah, voilà.
Ouais. Bah, on s'en doutait pour toi, Sam. Mais les dessins sont magnifiques, ça, y a aucun souci. Mais le scénario, voilà. De faire un relaunch ou une nouvelle franchise Thor... juste parce que il y a le film qui est sorti, c'était un peu idiot.
Les dessins sont de Coipel, non ?
Ouais, les dessins sont de Coipel, et c'est vraiment très joli.
Ah, je croyais que t'allais dire, non, c'est vraiment scandaleux, monsieur, qu'est-ce que c'est ? Dessin de merde,
Et après,
il y a des gens qui n'aiment pas Coipel, hein. Ça arrive. Hein.
Ouais. Il y avait quoi d'autre, Steve, tu disais
Oui, mais il y a des cons hein, dans la vie, c'est comme ça.
Il y a le cap de Brubaker et McNiven.
Ouais, bah pareil, ça m'intéresse pas non plus.
Oh, le démarrage est pas si mal.
Et donc après, donc Children's Crusade, hein, dont on a parlé déjà un petit peu. Bon, faut voir. Mais il manque quand même une série, parce qu'il n'y aura pas que trois séries dans le mag. Ou alors
ben, le problème, c'est que comme je pense Marvel prend beaucoup d'avance sur ses différents titres, ils ont tendance à avancer très vite, je trouve, ces derniers mois.
Ah oh bah pas Children's Crusade, hein.
Ouais, c'est vrai. Mais je pense que pour avoir trois séries comme ça, c'est justement pour caser deux épisodes d'une série dans chaque mag. Le problème, c'est que Children of Crusade ne fait que 9 épisodes, donc qu'est-ce qu'ils vont mettre quand ça sera fini ?
Ouais, ils trouveront bien une merde à nous mettre. Hein.
C'est ce qu'ils ont l'air de faire de plus en plus.
Ou alors, il y a un épisode qu'ils mettront pas.
Tu disais, Ino ?
Je disais que c'est ce qu'ils avaient l'air de faire de plus en plus, de prévoir presque 4 séries par mag et finalement en mettre que 3 à chaque fois. Et toujours taper à 2 épisodes sur une des séries en cours.
Ouais, c'est vrai. C'est fréquent ce moment. Faut dire qu'il y a le flash-forward.
C'est ça,
qui joue là-dessus, ouais. Mais on verra pour l'avenir s'ils vont continuer comme ça. Moi, c'est une stratégie que j'aime pas. Personnellement,
Ça fidélise pas le lecteur qui veut retrouver tous les mois sa petite série qu'il apprécie. Là, un mois sur deux, il se dit, bon, alors est-ce que je vais l'avoir cette fois-ci? Est-ce que ça va être sucré? Et puis là, les Macs commencent vachement à se ressembler chez l'Avenger, je trouve. Enfin, moi, c'est plus la différence. Hein.
C'est, disons, c'est représentatif de ce qui se passe chez Marvel actuellement.
Ouais, mais par contre, comme dirait je ne sais plus qui, c'est vrai qu'il fut un temps dans Strange, tu savais que tu avais obligatoirement un épisode d'Avengers, de Spider-Man, d'Iron Man et de je sais plus quoi. Et là, maintenant, c'est très aléatoire, en fait. Sur Marvel Icons, ouais. T'es jamais sûr de retrouver les quatre séries qu'il y a normalement, par exemple.
Bon, personnellement, ça me dérange pas.
Oh bah, c'est un peu chiant quand même, parce que tu te dis, je veux la suite de Fantastic Four ce mois-ci, et puis finalement, tu dois attendre 2 voire 3 mois.
C'est jamais 3 mois en général, c'est 2 mois.
Ça dépend. Voilà.
Ça va être le cas là pour Fantastic Four. Mais
Oui, mais ils nous ont publié un recueil entier avec 6 épisodes.
Bon, bah, c'est bien rare, hein. C'est l'une des premières fois qu'ils font ça.
Voilà, donc.
Là pour le coup.
C'est quelque chose qui me dérangerait. Enfin, je ne lis pas de VF. J'ai les Mac Panini, je ne les lis pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérangerait profondément de ne pas avoir d'un mois sur l'autre la série que je suis.
Et puis même, c'est le fait de ne pas le lire au rythme américain comme c'est publié, c'est-à-dire un par mois, d'en lire 2 d'un coup et puis devoir attendre ensuite 2 mois pour pouvoir lire un épisode après, enfin, je trouve ça chiant quoi.
Ah, ça saccade, t'as pas l'effet de série. Comme on peut avoir une télé, voir tout le temps son petit épisode, avoir son petit cliffhanger et se dire ok, je la retrouve la fois prochaine. Si j'ai pas aimé d'autres séries en même temps dans le mag, bah c'est pas grave, j'ai celle-ci. Là, finalement,
mais le problème c'est que les comics sont plus vraiment écrits comme ça maintenant.
Oui, c'est vrai.
Plus vraiment écrit comme des séries télé, mais plutôt comme des films avec une espèce de monteur en puissance dans les arcs. Ce qui fait qu'en fait, quand on prend un épisode isolé, très souvent on se fait chier, parce qu'il se passe pas grand-chose.
Oui, surtout quand c'est décompressé. Ouais.
Voilà, et que faut vraiment se prendre l'arc en entier pour voir quelque chose arriver.
Bah, la lecture en trahit, quoi.
Ouais, ou bien alors plutôt des épisodes de séries télé mais vraiment coupés en 5 ou 6 quoi.
Pas vraiment parce que vraiment j'ai vraiment l'impression que dans les séries télé chaque épisode faut vraiment qu'il se passe des trucs sinon bah tu décroches alors que le comics personnellement que l'écriture ultra décompressée qu'on a qui s'est accentuée en fait ces dernières années participe je trouve beaucoup à la baisse des ventes.
Ouais.
Les gens en ont marre de venir chaque mois payer 3 voire 4 dollars pour des comics où il se passe de rien.
Oui, bah c'est pour ça que le TPB finalement explose quoi.
Voilà. C'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi, par rapport à Panini, tu as le côté rituel, tu sais, de l'achat, de te dire je vais aller l'acheter chaque mois pour retrouver ma série. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas forcément, que tu ne sais pas vraiment à l'avance ce qui va se retrouver dans ta série, bah, je pense que ça peut aussi faire qu'il n'y ait pas le côté habitude rituelle d'aller acheter mon mag pour retrouver ma série.
Oui et non, avec les outils d'aujourd'hui, tu le sais, hein. Il suffit de regarder sur Facebook, tu as le détail exactement de ce qu'il va y avoir dans chaque épisode.
Voilà, et chaque mag, en fait, à la fin, t'as la preview du mag suivant, donc tu sais ce qu'il va y avoir.
Ouais, mais en même temps, quand t'es collectionneur un minimum, que t'as acheté tous les Marvel Icons, ça te fait chier de te dire, bon bah, ce mois-ci, je le prends pas parce qu'il n'y a pas la série que je veux lire, quoi, en fait.
Tout dépend si tu es collectionneur du Marvel Icons ou de la série qui est dans Marvel Icons.
Oui.
Peu
cher.
Mais oui et non, parce que finalement, quand tu payes ton comic qui vaut 4$ aux States, quand tu le payes en France 4€, 4,50€, voire plus, suivant le taux de conversion du dollar, ça te revient au même de l'acheter en VF. Si tu n'es pas capable de lire un comic en anglais, que tu le lis en français et que tu le suis en France, et donc bah tant mieux s'il y a des séries à côté qui te plaisent, si elles te plaisent pas, tant pis, de toute façon, ça te reviendra au même prix. T'as juste le décalage, quoi.
C'est même moins cher, à la rigueur, parce que quand tu vois, là, on a quasiment l'exemple
parfait. Ah non, mais je veux dire, si tu suis une série, ça te revient au même prix.
Oui, si tu suis qu'une série dans le mag.
Oui, bien sûr. Mais enfin bon, de toute façon, c'est bien quoi. D'un point de vue qualité-prix, quantitatif, etc., on est largement gagnant. Et puis là, ce mois-ci, par exemple, on a l'exemple du Marvel Icons hors série qui est limite un TPB pour 5,60 quoi.
Ouais, mais c'est lui en série.
Carrément.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est aux États-Unis, tu l'auras pas à ce prix-là.
Ah non. Même en trade, pas à ce prix-là quoi.
Et puis, point de vue qualité papier et tout, c'est quand même vachement bien pour 5,60. Donc niveau kiosque, on est plutôt bien loti. Je dirais que l'abus se fait sur la librairie souvent.
Est-ce que l'avenir ne pourrait pas être comme ça d'ailleurs? Est-ce que finalement Panini devrait peut-être pas envisager de sortir une fois tous les 3-4 mois un kiosque de 96 pages qui s'appelle Fantastic Four et t'as 4 épisodes de Fantastic Four?
Il y a trop de séries, hein, vraiment.
Mais oui, mais disséminé sur plusieurs mois.
Mais est-ce que leur but, c'est pas justement d'avoir quand même leur série un peu locomotive, on va dire, quand même, qui vendent les séries un peu plus mineures? Du coup, Fantastic Four, j'imagine que ça fonctionne quand même un minimum.
Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, de toute façon, on verra. Hein. C'est vrai que c'est un. À part Panini eux-mêmes, je vois pas qui pourrait.
Et encore.
Oui, encore. on va continuer un petit peu le planning de l'année. Bon, au début de l'année, on aura donc en 100% Daredevil Reborn, Carnage et Loki.
Bah, je suis très content pour Carnage et Loki, qui sont deux bonnes séries. Je les ai lues en VO et voilà, j'ai vraiment bien aimé ces deux séries. Maintenant, Daredevil Reborn, j'en avais parlé. J'avais fait le Comic City où j'avais traité du dernier. Mm-hmm. Et c'était vraiment pas génial, quoi.
Ah bon, bah écoute, moi je suis plus intéressé des trois par Daredevil Reborn que par les deux autres, finalement.
Ouais. Bah, personnellement, j'irais plus le voir par attitude complétiste qu'autre chose. Hein.
Bah, disons que Daredevil Reborn, c'est le truc qui ne sert strictement à rien.
Oui, mais c'est pas grave. Enfin, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé sympa.
Ça tombe un peu à l'eau à la fin, quand même.
Ouais, mais c'était une obligation pour Panini de le publier.
Oui, 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 avec le relaunch de Daredevil, ils n'avaient pas le choix.
Tu trouvais ça très voilà. Téléphoné, la fin?
Ça alors, attends, je cherche la blague, là, mais...
Allô?
Oui, moi aussi.
Allô?
Ah, d'accord, allô, allô, téléphoné. Oh,
d'accord. Okay. Ok,
ah,
merci.
D'accord, ok.
moi, je mets un 4 sur 5 sur l'échelle du LOL.
Bon, honnêtement, la meilleure des trois, ça restera Loki, je pense.
Ouais, Loki.
C'est produit par qui, d'ailleurs?
Ouh, alors là, tu me poses une colle à froid, là, comme ça.
Ouais.
On continue des albums Max prévus aussi pour janvier avec un Deadpool Max. Donc pour moi, ça, c'est un gros pass.
Ouais.
Carrément.
Idem pour Wolverine, The Best There Is.
Ouais.
Alors, pardon, excusez-moi, je lis mal. Deadpool Max, c'est pas tout de suite. Ce sera plus tard. De toute façon, ça va être publié. Donc voilà, passez votre chemin. Ce sera Deadpool Pulp. Oui, voilà. Qui est une sorte de Deadpool noir, hein, finalement. Mais on a surtout Wolverine The Best There Is.
Alors là, honnêtement, économisez votre argent.
Oui.
N'allez pas voir ça. Si,
d'ailleurs, je me demande si aux États-Unis, je pense que la série va être annulée. Hein, parce que c'est
oui, au deuxième épisode, on s'arrête.
Oui. Au dixième
voilà. Au deuxième.
Douzième.
Ah oui, putain.
Oui, ça aura duré un an, quoi. Bah, c'est pas étonnant.
C'est bébé, quoi. Et puis basta.
Ouais.
Ah, mais c'est vraiment de la merde. Hein.
En reconnaissant Panini, ils peuvent les sortir en 3, voire en 4.
Bah, ou ils font un deluxe ou un truc comme ça, là. Non?
Mais là, pour le moment, ça s'est prévu dans la collection Max.
Ouais, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que, franchement, à chaque fois, ils sortent des Deluxe et tu te demandes... Enfin, non, pas des Deluxe, des Big Book, par exemple. Ouais, et tu te demandes vraiment qu'est-ce que ça vient de foutre en Big Book. C'est des trucs totalement... comment dire... bah, ce que tu peux éviter, quoi. Ils sont pas bons, en plus, donc...
Bon, ça dépend, il y en a des bons. Hein.
C'est souvent dispensable, au fait. C'est surtout ça.
Oui, voilà, c'est pas la lecture obligatoire.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est une gamme où les bouquins sont chers et souvent bah, sont vachement dispensables. Alors que...
Mais c'est cher, oui et non. Enfin, 29 euros pour 12 épisodes, quand tu fais le compte à l'épisode, ça fait quoi Ça te fait même pas 3 euros de l'épisode, quoi.
Oui, mais c'est des trucs dispensables, dans le sens où, effectivement, ils mettent pas les grandes sagas en big book, alors que ce serait vachement bien.
Le problème, c'est un peu, à chaque fois, des éléments périphériques à la grande saga qui, elle, est parue dans le kiosque.
Je pense que c'est pour les complétistes, vraiment, les big books.
Bah, de toute façon...
Enfin, les monsters, en fait, parce que, techniquement, les big books, c'est pour DC. Mais,
Bah, le gros souci, hein, de toute façon, c'est toujours le même. C'est-à-dire que quand t'arrives en librairie, tu trouves que des trucs pas essentiels... Et les grandes sagas importantes, elles sont sorties en kiosque, les trois quarts. Et donc, ce qui était plutôt bien, c'était de sortir enfin des espèces de DPB souples, là, les best comics. Mmh. D'ailleurs, est-ce qu'ils en ont prévu pour 2012 déjà, des best comics?
Ils sont sortis... trois albums best comics en février, consacrés alors à Thor pour Serment de sang, Les Vengeurs, la Red Zone et Captain America, période de Jürgen Seckebert.
Oui, alors là, c'est vraiment de la récupération. Hein.
Red Zone, moi, j'aimerais bien. Parce que c'était excellent.
Ah non. Oh, c'était téléphoné à un point, et en plus, c'était Geoff Jones. Il m'avait vraiment déçu.
Ah, moi, j'avais adoré. Autant le reste de son arc, j'avais pas du tout aimé.
J'ai ouvert les deux premières pages, je savais qu'est-ce qui se passait. Enfin, quelle était la fin, qui était le méchant, etc.
Ah bon? Ah, moi, j'avais pas du tout venu.
Bah, déjà, tout est dans le titre.
Ouais. Si tu le vois comme ça...
Ils te sortent un nouveau mec, tu te doutes qui c'est.
Non, moi j'avais adoré du début à la fin, franchement, et puis en plus c'était les débuts de Levi qu'on appelle dessus, donc et c'était très mal.
Bon.
Bon, moi, je n'ai pas lu, hein, donc je n'en parlerai pas.
Moi non plus.
Moi non plus.
Moi non plus.
C'est étrange.
Ah bah, c'est comme vrai, tous les trucs dont vous parlez.
Ouais, au fait, Claire ne lit que les mensuels.
C'est pas du tout largué.
Elle ne lit que les mensuels.
Non, mais je n'ai rien de ce qui est publié en français.
Non, mais là, on parle de justement de ce qui est publié en VO d'abord.
Elle est snob quand même, hein.
Non, mais... Oui, très.
Elle a décidé...
Moi, je lis John Ritten, monsieur.
Non, mais elle lit que les mensuels des cours, en fait.
Tu vas tu faire dans un débat Panini, madame.
Mais oui, non, mais ils sont gentils chez Panini, je les aime bien.
Oh, quoi que si, il y a du Star Wars.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Toujours Star Wars, bien sûr, pas bien sûr.
Allez, on continue dans la dans les petites news pour 2012. On a Prélude to Schisme qui va débarquer dans la revue X-Men en janvier.
Logique. Ah, génial, le truc que je vais pas lire.
Bah, avec une triple 12 d'Uncanny.
Ah, ça, ça va.
Non, mais disons que ça, c'est des trucs, ils sont obligés. Je veux dire, commercialement parlant, ils ont pas le choix. Ils sont obligés de publier de Schisme.
Mmh. Ouais. Non, là, c'est Prélude to Schisme.
Ouais, mais...
Le truc, il sert à rien avant.
Oui, c'était les quatre petits, là.
Voilà, ouais. Ils servent à rien.
Oui, mais en même temps, voilà, pour les complétistes, pourquoi pas.
Ouais, bah pour les complétistes, sachez qu'X-Factor, bah ça dégage de X-Men Universe.
J'allais y venir, voilà.
Oh là là.
Arrête.
Et ça devient quoi?
C'était pas une bonne série, ça?
Si, c'est une excellente série.
Si, ça
conforte
hein.
Mon idée qu'avec la réorganisation des titres X-Men après Schisme, je pense qu'on aura droit à un troisième mensuel X-Men en France.
On va avoir un bon relaunch peut-être.
Parce qu'il y a une douzaine de séries après Schisme, donc si on veut tout publier en France, pas vraiment le choix.
Ouais, c'est plausible. Hein.
Mm-hmm.
Comment il pourrait l'appeler alors du coup?
X-Men Family. Bah,
Astonishing X-Men, hein, bon, puisqu'on pourrait publier Astonishing X-Men là-dedans.
X-Men Stars.
Non, parce que les Astonishing vont sortir en 100% maintenant. X-Men United.
Ouais, bref.
United.
Pas du bon à venir tout de suite chez les X-Men en tout cas.
Attendez, Sam a fait une blague, j'ai envie de l'entendre.
X-Men Desunited.
Ah non, je crois que t'avais dit X-Men Unutile. J'aurais trouvé ça drôle, tu vois, mais bon.
allez, on continue.
Totalement à 0,5 sur l'échelle du LOL. Hein. Au bout de 3, t'es éjecté de la coupe.
On continue avec un Marvel classique, qui est la série qui reprend des vieux épisodes, qui sera consacrée aux origines de Ghost Rider avec des épisodes tirés de Marvel Spotlight.
Ne connaissant pas beaucoup Ghost Rider, je dis pourquoi pas.
Exactement, moi pareil. Et en plus, je crois que ça marche pas mal ce format-là, un petit peu plus... Le papier qui est un peu plus vieilli, là. Je dis peut-être une bêtise, mais...
Ouais, non, il est un peu genre papier journal, un peu l'époque des Strange et compagnie, quoi.
Exactement.
Mais tu sais qu'il le laisse traîner comme ça pendant les 5 20, quoi. Il fait remonter, il le fout dans une cave humide, voilà.
Il le viole pendant des heures.
Oula, ça t'arrive là. Mais non, mais c'est pas mal, ça. Attention, deux avertissements, au troisième, tu t'en vas vraiment. Hein.
Je sais pas, avec son crâne de feu, ça peut donner un truc intéressant, hein.
Oh, mais... mais que t'arrive-t-il?
Non, mais là, on a passé l'heure de 11h, donc... de 11h du soir, donc...
Alors, je te rappelle juste que les auditeurs n'écouteront pas forcément ça à deux nuits, hein. Ah oui, j'ai un vieil insecte gigantesque qui est rentré dans la maison. Un truc qui doit faire la taille d'un doigt, je pense. Bon, bah écoutez, hein, si je me fais dévorer vivant...
La machine qu'on y aura enregistrée, donc c'est pas grave.
Oui, voilà, c'est ça. Donc apparemment, ça contiendrait les épisodes de Marvel Spotlight 5 à 11. Ça ferait environ 144 pages. Voilà.
Moi, je dis pourquoi pas, parce que c'est vraiment un personnage que je connais très peu. Je crois que le seul truc que j'ai lu de Ghost Rider, c'était son intervention dans Shadowlands. Donc ça date. J'ai pas lu du tout le relaunch qui a été fait cette année. Donc je dis pourquoi pas un Marvel Gold, c'est ça l'appellation
classique.
Du titre
classique.
Classique, un Marvel classique sur Ghost Rider, ouais.
Mais donc ça reprend un petit peu les intégrales, mais en moins épais, quoi. C'est genre, je sais pas, tu dois avoir 5-6 épisodes dedans, classique.
Ah, ouais, c'est 144, ça ferait 6 ou 7.
Ouais, 6-7 épisodes suivant la pagination de l'époque. Quoi.
D'accord, ok.
Ouais, on avait déjà eu les premiers Thor, comme ça, avec premier Captain America, premier Iron Man, enfin... Ça sort tous les 3 mois, je crois.
Bah voilà, ils nous gardent les grosses intégrales par année, et ils accélèrent peut-être un peu le rythme des parutions, parce que sur certains titres, c'est un peu long. Puis après, en petit prix, ils nous mettent des trucs comme ça, c'est moins.
D'ailleurs, j'ai pas trop compris, on a eu une intégrale Captain America, et on a eu en même temps un Marvel classique Captain America, j'ai l'impression qu'il y avait des épisodes qui étaient dans les deux, non. Quoi.
Absolument non pas.
Ah d'accord.
Non,
du tout. Non, le Marvel classique, c'était avec les épisodes de Jack Kirby, il me semble.
Oui.
D'accord, et l'autre c'était début 60 alors.
Bah, c'était les Tales of Suspense en fait.
D'accord, ok. Ok, ok.
On continue Marvel Gold, une nouvelle collection dont Sam avait envie de nous parler.
Parce que je n'ai rien compris à l'annonce de Panini là-dessus. Alors, je vous le cite. Marvel Gold est aux albums Best Of ce que Marvel Select est aux albums Deluxe. Alors là, la phrase pour moi, elle veut rien dire.
C'est très simple, en fait, ça veut dire que ça va être des rééditions de ce qui est sorti en Deluxe. Mais ouais. Comme mais on l'a, cet été, on a eu Wolverine Origins.
Ouais. Ah bah, je suis content parce que moi je m'étais acheté House of M en version de luxe et du coup ils vont le ressortir à moitié prix. Bah, donc, ouais, en gros je me suis fait enculer. C'est ça, c'est ça que t'es en train de me dire.
Non, et à sec et avec une poignée de gravier.
Bah forcément, parce que toi t'es un ancien lecteur. Mais par exemple, moi, House of M, bah, cet été j'ai dû l'acheter en VO parce que je le trouvais plus en VF.
Moi aussi. Non, mais tu as dû l'acheter moins cher.
Moi j'ai fait encore mieux, je l'ai acheté à l'époque en VF en Deluxe et je l'ai jamais lu.
Non, mais c'est aussi pour les nouveaux lecteurs ou pour les gens qui n'avaient pas la thune à l'époque d'acheter le Deluxe, bah, une réédition comme ça. Moi je me souviens avec Steve, on traînait un peu sur le stand Panini à la Comic Con.
Ouais, d'ailleurs vous avez piqué des bouquins, c'est pas bien, moi je le dirais pas à l'antenne. Ah bah mince.
Non, mais il y avait
on a même aidé des gens à faire leur choix.
Ouais, il y avait plein de gens qui étaient super intéressés par le Wolverine Origins parce qu'ils l'avaient loupé en Deluxe. Et que maintenant il le trouvait plus. Donc ce que tu l'as acheté en deluxe, bah t'as un bel objet. T'as un objet qui est un peu plus classe que ce que tu vas avoir là avec l'édition d'House of M.
Puis surtout mais, tu peux le plus cher.
Ton deluxe,
plus, cher ouais, plus. Plus cher que le prix de base du coup.
Ouais.
Oui, enfin le prix va chuter puisqu'il sera de nouveau disponible.
Oui, c'est
oh là là,
donc faut le faire maintenant là.
Pas forcément, non, pas forcément. T'as vraiment des trucs, même en réédition ensuite, qui valent toujours cher. C'est vraiment l'objet que les gens recherchent.
Ouais.
Du moins que c'est en rupture de stock, le truc vaut un max.
Et ouais, je trouve que c'est une très bonne idée.
Bah alors peut-être pour le défi de Thanos.
Voilà, ce sera donc il y a deux titres qui vont sortir en janvier, donc le défi de Thanos et House of M, 16€ l'album.
C'est vachement bien ça.
Ouais.
Et pas.
Ouais, c'est pas mal le
ça défi de Thanos. Aussi.
Bah, House of M, ça reste.
Par contre, ce qu'on peut un peu déplorer là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence dans les collections. C'est-à-dire qu'on te sort le défi de Thanos, House of M, enfin c'est des trucs qui n'ont aucun rapport dans le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. Vraiment un truc des années 90, début 90, un truc des années 2000. Enfin, bon. C'est un peu space. Pourquoi ça plus qu'autre chose, quoi, j'ai envie de te dire.
Ah, c'est du one shot pur, hein. Ouais, pour le coup.
Ouais.
Ouais, House of M, t'as pas besoin d'avoir lu toute la continuité qu'il y a derrière.
Mais bah, de toute façon, tu apprécies mieux le truc si tu connais bien l'univers Marvel. Si tu le connais pas, de toute façon.
Moi, j'aimerais bien qu'ils nous ressortent en best comics ou en truc comme ça. Je sais pas, les 7 Civil War, les Final Crisis, Infinite Crisis, etc. quoi, ce serait pas mal.
Ah bah maintenant c'est trop tard.
Ouais, là c'est mort.
Ah oui, bah oui, c'est vrai. Je suis pas dans le bon débat, merde.
Non, mais à mon avis, tu sais, les Civil War, les trucs comme ça, je pense que si leur gamme à bas prix avec House of M, Thanos, etc. ça marche, bah... On va les voir arriver, je pense.
Ah oui,
Civil War, c'est sorti il y a combien de temps en Deluxe? Il y a 3 ans, 4 ans?
Ah ouais, facile. Ouais.
Facile. Donc, à mon avis, si les gens sont là au rendez-vous pour aller acheter House of M à 16€, eh ben, ils vont nous sortir du Civil War à 16€. Hein.
Possible. Mmh. Mais je pense qu'ils feraient des euros, là.
Carrément.
Mmh. Non, mais au moins, ce serait, voilà, on aurait enfin les grandes sagas en librairie.
Ouais.
Allez, on va continuer. Scarlett arrive en France. La série de Brian Michael Bendis et Alex Maleev.
Très très bien. J'ai vraiment kiffé à lire ça.
Moi, j'ai bien aimé les photos sur Internet là. Ah non,
est-ce
parle pas de ça.
Est-ce que c'est terminé Est-ce que c'est terminé seulement Scarlett
En fait, c'est il a écrit le premier arc. Il a pas dit que c'était fini, mais pour l'instant, ce n'est plus publié.
Non, mais c'est en pause parce qu'ils font Moon Knight en ce moment.
Ouais. Mais c'est prévu pour être pour continuer quoi, c'est pas prévu pour être une mini seulement en 5, c'est vraiment prévu pour continuer, mais voilà, il fait un peu tu sais le système Dark Tower, c'est-à-dire une mini à chaque fois quoi.
Mm. D'accord.
Et moi je me souviens
Dark Tower qu'on ne vous conseille pas d'ailleurs.
Si, c'est très très bien.
Surtout pour reportez-vous au podcast.
Non mais je me souviens Steve, t'avais lu le premier, t'avais pas...
J'avais moyennement accroché mais j'ai pas eu le temps de lire la suite.
Ah il avait lu l'épisode où elle faisait du cheval, Scarlett O'Hara. Donc allez, je me mets...
Non mais je crois que ouais, tu l'avais lu mais par contre il me semble que tu m'avais dit que moi ça pourrait peut-être me plaire ce genre de comics. Enfin je sais que moi Scarlett, ça faisait partie des comics, je m'étais dit pourquoi pas.
Bah c'est très très bon, vraiment je le conseille, c'est vraiment. Et il sera à combien? Il sera dans.
Dans les 12 euros je pense, 12, 13.
Ouais, c'est un 100%, donc.
Ouais. Bah ouais, Allez-y, franchement.
Faites comme si ma blague était pas drôle aussi, non mais.
On a préféré l'ignorer directement.
Oui, voilà, tu vois.
Mais c'est quoi ce bordel, je rêve, quoi.
Allez, on continue, on accélère, parce que là, sinon, on va être super en retard sur le temps. Un Marvel Select qui va accueillir la saga Marvel Knights de Spider-Man par Millar et Dodson.
Donc vous voyez les gens.
Ah oui, bah, c'est en 12 parties quand même, comment ils vont faire alors?
304 pages.
D'accord, et ça va coûter combien?
Alors, je ne sais pas du coup, puisque Marvel Knights. Bah ouais, peut-être une vingtaine d'euros, puisque les Marvel Select coûtent pas très cher. Ah, ouais.
Alors c'est bien. C'était sorti en deluxe.
Je pense que c'est de la merde. Hein.
Oh, tu vas te calmer. Donc c'était sorti en deluxe.
Je confirme, c'était de la merde.
Ah ouais. Je connais pas du tout, mais moi ça m'intéresse parce que j'aime bien Dodson.
Mais Dodson est très bon, mais c'est le scénario qui est pas bon du tout.
Millar.
Ah, c'est Marc Millar. Hein.
Voilà. Ouais.
Ah, oui, c'est vrai. Millar.
Oui, Marc Millar, oui.
Ah bah moi j'aime bien Marc Millar, donc.
Oui, mais enfin, il y avait une idée intéressante comme d'habitude, mais qui n'était pas développée.
Nono, peut-on parler vraiment de tes goûts quand on dit que tu aimes Fear Itself
et que tu aimes Dark Tower?
Bah oui, tu peux la fermer.
Peut-on vraiment dans un podcast?
C'est la fête à Nono.
Mais au moins, moi, monsieur, j'aime les choses.
Et flamant.
Parce que faire un podcast et dire pendant tout le podcast c'est de la daube, j'aime pas, c'est de la merde. Voilà, moi au moins j'aime des choses et je fais vivre l'industrie.
Oh là, et ouais, oh, hein. Et ça va
tout, là. Oui, mais tu fais vivre des merdes.
Bah oui, bah il en faut.
On avait dit que ce serait un débat.
C'est un règlement de compte, c'est même que ça.
C'est pour ça que j'avais précisé dans l'enregistrement de ma partie sur le Paris Manga que j'étais pas d'accord avec tout ce que Sam avait dit dans le dernier weekly.
Ouais. Alors, je vais corriger un tout petit truc, Scarlett sortira dans la gamme Fusion.
C'est quoi ça?
Ce qui paraît plus logique.
Ouais, qui est une gamme qui fait des trucs qui ne sont pas que du Marvel.
Tu sais, c'est là où c'est ce où il y a les Buffy, etc.
On aura trois autres tomes de Fusion. On aura un tome de The Boys, un tome de Buffy classique et un tome des Chroniques de Conan.
Cherchez les rares.
Buffy classique à la limite, parce qu'apparemment c'était sympa.
Ah, c'est les vieux trucs parus chez Dark Horse.
Oui, ouais. Donc non.
Ouais, la première était sympa parce que ça refaisait le film en comics en 4 ou 5 épisodes et puis voilà.
Ouais, je m'en souviens.
Après. Le film.
Ouais, le vieux
non,
film.
Non, en fait, à un moment, ils racontaient.
Ils ont osé adapter le film.
Ouais, en comics, c'était les 4 premiers épisodes, je crois.
Le seul truc intéressant, je crois, que j'avais lu, c'était en fait des épisodes qui se passaient en fait entre le film et le début de la série télé. En gros, qu'avait fait Buffy entre les deux.
D'accord.
C'est pas mal, mais sans grand intérêt.
Ouais, mais voilà, c'est vraiment si j'ai de l'argent en plus, quoi. C'est pas un achat prévu.
T'en auras pas, donc je te dis tout de suite.
on continue alors avec un choix très 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 étrange de la part de Panini. Alors là, je ne comprends pas. Best of Marvel,
oui.
Consacré aux 10 premiers numéros de la série de Peter David, Spider-Man 2099.
Alors ça,
c'est une bonne nouvelle.
Ah, si, moi ça m'intéresse. Ah. J'avais lu le. C'était quoi? C'était le Time Storm qui était sorti en extra en Spider-Man HS. En kiosque, ouais, il me semble.
C'était bon.
Mais c'était très bon ça.
Ah bon, d'accord, parce que je l'ai acheté, je l'ai jamais lu.
Bah moi j'avais. C'était tout au début où je me mettais à lire des comics en kiosque.
Oh, c'était tout au début.
Oui, c'était tout au début. Et j'avais trouvé ça très sympa. Alors maintenant s'ils nous sortent l'intégrale 2099, pourquoi pas.
Ouais, mais attention, best of
c'est pas dit que ce soit l'intégrale. Mais je trouve que c'est un choix étrange parce que c'est quand même relativement vieux aujourd'hui. Et plus beaucoup de monde se rappelle de 2099 et surtout ça n'a plus aucune incidence dans l'univers Marvel actuel.
Non, mais souviens-toi du dernier jeu Spider-Man qui est sorti.
Shattered Dimensions, ouais.
Voilà, la partie sur 2099 est la partie qui a le plus plu aux joueurs.
Ah bon,
et d'ailleurs,
dans le
prochain jeu Spider-Man qui sort là en fin d'année, les deux univers jouables, c'est l'univers classique et l'univers 99, il me semble. Donc à mon avis, Panini a senti un regain d'intérêt sur cet univers. Et ils se sont dit, voilà, pourquoi pas.
Le truc, c'est qu'en VO, il est sorti aussi le recueil des 10 premiers, à l'heure actuelle.
Ah ouais.
Mais il n'y a pas la suite, donc je pense qu'on peut aussi se brosser pour avoir la suite en français après.
Mais quel est l'intérêt, quoi? Peter David est resté jusqu'au numéro 40 et quelques. D'ailleurs, il est parti, et ça s'est cassé la gueule deux épisodes après.
Enfin, Peter David est très très apprécié des fans français, quand même.
Carrément.
Toujours. Donc, voilà,
très bon scénariste.
Le Big Book X-Factor.
Et très très bon romancier aussi, d'ailleurs. On le dit pas assez, mais il a écrit énormément de romans
de novelisation
Star Trek.
Ouais.
Et très très bon danseur d'ailleurs. Vous savez qu'il a gagné Dance The Star aux États-Unis.
Non mais sérieusement, c'est vrai que j'ai lu plusieurs de ses romans dans l'univers Star Trek et ils sont très très bien écrits. Dommage, on ne le connaît pas assez.
En vous écoutant là, en fait, je suis complètement perdue. C'est-à-dire que avec toutes les notions de, alors le Marvel classique, le Bidule Gold, le machin standing et le truc ultimate avec le machin en TTB, coverback, machin truc. Honnêtement, mais je suis
le coverback.
Ah non mais.
Moi, de toute façon, la grande interrogation que j'ai, c'est Panini, néanmoins, ayant perdu DC et Vertigo, est-ce qu'ils vont aller chercher quand même ailleurs que chez Marvel des choses ?
Eh bah, pour le moment, ça n'a pas vraiment l'air de se faire.
Non. Parce que tu parlais de Dark Horse, ils ont publié déjà beaucoup du Dark Horse avant ?
Ben, Buffy.
Et ouais. hormis Buffy, de toute façon, c'est pas Panini qui a les droits des autres séries.
Bah non, on a diffusé les Star Wars. Ouais.
Non mais je pense qu'il vaut tout le catalogue Joss Whedon, je pense qu'ils vont le reprendre. Hein. C'est-à-dire Angel and Face et les mini qui vont paraître. M'étonnerait qu'il le laisse passer.
Bah, en même temps, regarde, il y a quelques mois, c'était pour être précis, je ne serai pas précis, c'était... parce que j'ai pas la date.
Non mais si, je me souviens bien, l'éditeur français Angel, qui a repris la série Angel, c'était ouais. La série qui était parue chez IDW aux États-Unis.
C'est pas After the Fall, non ? C'était pas ça ? Non.
Si, c'est ça.
Si
oui.
C'est After the Fall.
After the Fall. Voilà. Et ça, c'était paru chez IDW.
D'accord.
Et depuis, en fait, Dark Horse a repris les droits.
Okay. Ouais, mais il y a eu 28 ou 32 épisodes, je crois, de After the Fall, qui d'ailleurs s'est appelé Angel hein, par la suite.
Oui.
Donc, ouais, bon. C'est vrai que pour le moment, le catalogue Panini n'a pas l'air d'aller chercher ailleurs que chez Marvel, en tout cas pour le début de l'année.
Non, au contraire,
ils ont juste comme ils ont augmenté.
Oui, voilà.
Ouais, non mais ils font de la réédition, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils font des choix un peu particuliers, assez surprenants. Et puis par exemple, on aurait pu croire qu'ils allaient accélérer le rythme des intégrales, et puis bah pas du tout, ils semblent pas tellement.
Bah non, ils en sortent un nouveau, ils sortent l'intégrale Spider-Man Team-Up.
Ah ouais, ouais. Sans déconner. Ouais, ouais.
Enfin les Marvel Team-Up.
Ouais, ouais, Marvel Team-Up, et ça commence avec Spider-Man.
Ouais, bah oui, bah... parce que de toute façon Marvel Team-Up c'était Spider-Man. Mais à savoir que dans l'intégrale Spider-Man Team-Up commence là en octobre.
Ah, je croyais que c'était 2012.
L'intégrale de février continuera justement Marvel Team-Up.
D'accord, mais un choix un petit peu aussi un petit peu bizarre quoi, parce que c'est pas une série vraiment que...
Oh, il y avait du bon, hein. Il y avait du très très bon. Là. Ouais, c'était mais, publié à l'époque dans le spécial Strange.
Je suis pas certain que les nouveaux lecteurs vont s'intéresser tellement à cette série par exemple.
Moi, c'est un moyen de voir Spider-Man en tandem avec plein de héros de l'univers Marvel.
Moi, ce que je crains, hein, c'est qu'à partir des années fin 80, à partir du moment où il y a eu une multiplication des séries sur les X-Men, sur Spider-Man, etc., ils arrivent plus à nous sortir des intégrales, du coup.
Là, c'est 72-73, quoi.
Oui, non, mais je parle des autres titres actuels. Quoi.
Ah, je me souviens
ouais,
pas.
C'est assez vieux, hein. On attend l'autre série tandem, hein, le Marvel 2-in-1. Avec The Thing en personnage principal et puis des guests.
Oh, j'aimerais bien qu'ils mettent un petit Executioner Songs là, un truc comme ça.
Bah ouais, non mais moi ce que je redoute justement, c'est qu'ils arrêtent les intégrales à partir du moment où il y a plein de crossovers. Puisque comment publier série par série en intégrale des gros events ?
Ah oui, bah ça oui, ça c'est pas possible ça là-dessus. Ouais. Mais par contre, par exemple, ce crossover là, il y avait 12 épisodes. Moi je crois que c'est un des tout premiers trucs que j'ai lu gamin. Et j'avais trouvé ça génial, et c'est impossible à trouver à l'heure actuelle.
Bah, au fait, ce qui serait génial, c'est qu'ils alternent les intégrales et les espèces de bouquins reliant les gros events.
Ouais, un Marvel crossover.
Par exemple, un truc vraiment qui relie les épisodes impossibles à publier en intégrale. Bah, alors du coup, les intégrales ne seront plus intégrales. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, tant pis.
Bah, à moins de faire un prix attractif...
Ouais mais enfin ce serait chiant, tu vois, t'imagines, t'as 3 intégrales ou 4 et tu dois switcher...
C'est comme ça dans la VO, hein.
Enfin ça n'existe pas de toute façon, les intégrales en VO. C'est quand même une particularité française aussi, il faut préciser. Ouais. Parce que il y a les Essentials, mais ça va pas loin, finalement. C'est juste les premières
années. Ça va quand même vachement plus loin qu'on croit. Hein.
Ouais mais ils ont switché les... Enfin ils ont pas encore fait les... Je veux dire, ils ont pas fait les séries à partir du moment où ça part dans les crossovers, quoi, pour la plupart.
On verra jusqu'où ils vont, quoi.
Mais de toute façon, au rythme où c'est publié, on a le temps de voir. Hein.
Oui.
Encore qu'ils peuvent te sortir une petite surprise comme ça, un peu en périphérique, justement, vu qu'ils ont l'air de pouvoir maintenant se permettre... Enfin, vu qu'ils sont ici, ils peuvent se permettre de sortir d'autres trucs un peu en marge.
risquerait-il pas d'asphyxier un petit peu le marché s'il sort trop de parutions? Parce que
je crois qu'ils veulent surtout asphyxier DC chez la concurrence. Hein.
Les gens ils connaissent Marvel, bon bah on va leur donner encore plus de Marvel, et puis DC ils connaissent pas encore assez, bon bah on va mettre encore plus de Marvel, comme ça ils iront même pas jeter un œil à DC.
Et moi je pense que c'est pas une bonne technique, parce que déjà l'opération Flash Forward, résultat des courses, beaucoup. Enfin, par exemple, mon frère a arrêté d'acheter autant de parutions qu'avant, parce qu'ils ont tellement pris de l'avance, tellement sorti de choses, que bah, il a pas pu tout acheter, et puis du coup, il a laissé tomber plein de trucs.
Ah, c'est toujours une histoire de fidélisation, hein. On t'en met tellement, tu sais même plus où voir, tu sais même plus quoi lire, t'es perdu.
Ouais. Lui, il a choisi justement ce moment-là pour stopper plein de mensuels.
Ouais, il y a des jumping points, puis des jumping out points.
C'est ça.
Non, mais c'est... Je sais pas où ils vont. Je suis pas certain que la meilleure stratégie pour eux soit de se concentrer uniquement sur Marvel. Même si beaucoup d'autres petits éditeurs à côté, enfin petits, ça dépend de l'éditeur. Hein. Petit ou gros, puisqu'on a Delcourt en face, on a Dargo.
Non mais voilà, le truc c'est éditeurs, que mais... c'est peut-être pas une stratégie volontaire. C'est peut-être aussi que pour le moment c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Voilà. Peut-être qu'après ça viendra, mais que là ils viennent de perdre DC. Et bah du coup ils se mettent à fond sur Marvel parce que bah c'est ce qu'il leur reste et ils
bah oui non mais ça tombe quoi. Effectivement ça tombe comme par hasard au moment où il y a plein de petites maisons qui s'ouvrent et qui prennent les licences qui restent. Par exemple Atlantic qui a repris Morning Glory Academy. Oui. Non mais je dis ça parce que bref.
Ouais, on ne parlera pas même pas de l'édition, mais ouais, je sais pas. Par exemple, en ce moment, Image est en pleine période de renouveau, notamment avec beaucoup de mini-séries très intéressantes.
Ouais, beaucoup de choses.
Ça aurait peut-être été très intéressant pour Panini, justement dans son label Fusion, de publier des albums librairies comme ça, des petits 100% à pas cher, une douzaine d'euros, une mini-série complète de 4-5 épisodes, et ça permet de faire découvrir des univers à...
Bah, ils vont peut-être le faire,
autre chose
sur
que des super-héros, quoi.
Ouais, ils vont peut-être le faire sur Severed, des séries comme ça, je sais pas.
Allez, pour conclure, un petit tour de table. Qu'est-ce que chacun attend de Panini dans le début de l'année 2012, voire même pour l'année 2012 au complet? On va faire honneur... au nouveau, Ino. Oh,
putain, j'ai eu peur.
Non, parce que toi, Claire, faut que tu cherches une série, la vite fait, à trouver.
C'est ça, donc je vais attendre que...
Un truc que j'aimerais bien, ça serait les New Warriors. J'aimais aussi bien ça quand j'étais gamin, j'avais trouvé ça vachement bien. Et...
J'adorais New Warriors.
Et il y avait des... Enfin, ça, c'était super feuilletonnant, il y avait plein de bons rebondissements. J'ai un super bon souvenir et j'aimerais bien, voilà, une je sais pas, une collection à bas coût avec ça. Dans mon souvenir, ça a pas mal vieilli, mais après, les souvenirs, on sait ce que c'est, hein.
Pas tant que ça, non, mais j'en ai relu quelques-uns relativement récemment, ça n'a pas si mal vieilli que ça, c'était du bon Fabian Nicisa.
Dans mon souvenir, il n'y avait pas tant d'épisodes que ça non plus, donc...
75, premier volume.
Voilà, moi c'est un truc que j'aimerais bien, ça.
La fin était restée inédite en France, hein. Spécial Stan, je n'avais pas
publié... Je sais que je l'ai pas
lu, ouais. Allez, suivant sur la liste, Sam, tiens.
La série X-23, que j'aimerais bien voir débarquer, parce que pour le moment, elle est toujours pas annoncée en VF.
Ouais, on a eu Daken, ce mois-ci.
Voilà. Et dans la logique paninienne bien connue, ils vont nous sortir le crossover justement entre Daken et X-23 en fin d'année. Mais pas les premiers épisodes de X-23 avant.
Ouais.
C'est une logique, mais spectaculaire.
En même temps, j'ai lu les épisodes de Daken parce que je lisais X-23 et j'ai compris Daken sans avoir lu le début. Et je pense que l'inverse est valable également. Je pense que
tu rates mon truc. Parce qu'autant Daken, moi j'ai pas accroché.
Moi non plus, pas du tout. Mais autant, voilà, X-23 c'est vraiment une bonne série. Mais je pense que si tu n'as lu que Daken, tu peux comprendre le crossover sans avoir lu X-23.
Il y a quelques petites références à ce qui se passe avant quand même.
Bah, comme du côté de Daken, et pourtant ça nous a pas empêché de comprendre.
Ouais. Tiens, suivant, Claire.
Alors.
Tu veux moins
non, non.
Je veux du Wonder Woman, du Birds of Prey chez Panini.
Moi, j'aimerais bien que Flashpoint y soit publié quand même. Non, non, je pense que le label Fusion, à mon avis, qui doit être un label un peu proche de ce que vous pouvez faire Vertigo, m'intéressera. Donc, je regarderai un peu les publications qui seront faites là-bas. Et notamment, Scarlett, je pense que Scarlett m'intéresse. Donc,
Voilà. Buffy.
Et puis la suite de Dark Tower, bien sûr.
Buffy, non, parce que j'ai pas suivi. Et Dark Tower, bien sûr, je suis une fan absolue. Et j'adore.
Tu me dis pas merci.
Dark Tower, ah non, mais je veux dire, s'il y a besoin de faire des subscriptions... Putain.
Elle n'arrive même pas à faire la vanne, tu vois. C'est terrible.
Il y a besoin de faire des souscriptions, des trucs comme ça, mais moi je suis à fond dedans. Hein. Je veux dire, Dark Tower, c'est quelque chose qui doit être publié, hein, quand même. Il faut,
quand
le,
même,
faut,
carrément.
Faut le dire.
Et puis Power Girl aussi. Hein.
Et Power Girl, tout à fait. Tout à fait.
Penny.
Oui, bah écoute, moi j'ai au risque d'étonner tout le monde. J'aimerais bien, pourquoi pas, que Panini nous fasse ce que faisait Semic à l'époque, c'est-à-dire qu'il commence à nous sortir des albums reliés, des Marvel Icons, des Marvel Heroes, etc.
Ça, ce serait une putain de bonne idée.
Tu vois ?
Mais j'y pensais l'autre jour justement, à ces vieux albums reliés, ce serait génial.
Non mais genre, avec plus d'albums, pas juste 3, mais genre, sortir en librairie des kiosques reliés. Mais vraiment, les kiosques tels qu'ils étaient. Comme des albums reliés.
Bah moi c'est comme ça que j'ai découvert Spider-Man.
Voilà.
C'est comme ça que j'ai commencé l'heure du comics aussi, par les albums reliés, quoi. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était quoi ? C'était 35 francs, ouais. Je crois, l'album relié, où il y avait 3 numéros.
Alors, il n'y aurait pas besoin... Voilà, il n'y aurait pas besoin de faire une édition somptueuse, hein. Vraiment, les trucs avec le papier du kiosque.
Ouais, et coller dedans, voilà, c'est tout.
Mais coller, voilà, un truc relié, quoi.
Bon, avec une colle qui tient un peu plus que la
oui.
colle...
Oui, ah, je sais pas, moi j'ai des trucs qui tiennent encore, hein.
Ouais, bah il y en a, mais il y en a d'autres, au bout de 6 mois, tu les ouvres et bam, les machins, ils se pètent.
Moi, j'aimais bien justement les retirer, comme ça, j'avais l'impression de les avoir achetés au détail.
Ouais, mais ça te laissait une marque sur la tranche.
Après, tu peux pas les revendre, tu peux plus... Enfin, tu les revendras beaucoup moins cher que du coup, que si t'avais gardé le truc relié.
Non.
Donc moi, le niveau kiosque, j'ai arrêté de lire du kiosque Panini depuis un moment. Je rejoins Sam sur la série X23, parce que c'est vraiment une belle surprise de, on va dire, du pseudo-relaunch post-Siege, avec tout ce qui est arrivé, comme Deacon, Wolverine, etc. Et X23, c'est vraiment une très très bonne surprise. Maintenant, voilà, j'irai pas l'acheter, parce que je l'ai lu en VO, donc... Je vais pas.
Non, mais au moins que les lecteurs VF
oui, qui puissent enfin le découvrir. Scarlett, comme disait Claire, voilà, c'est vraiment un truc très bon. Maintenant, c'est plus au niveau de la librairie. J'aimerais qu'ils ressortent, qu'ils fassent un peu plus de réédition de vieux trucs, parce que étant assez récent dans le monde du comics, il y a pas mal de trucs du coup que j'ai du mal à trouver, ouais. Ou alors que je vais trouver en mauvais état sur les brocantes, etc. Et ressortir des vieilles arcs, des arcs qui ont très bien marché.
J'ai compris les vieilles armes. Ressortir des vieilles
armes. Chez moi, tranquille. Des arcs qui ont bien marché. Là, par exemple, récemment, je me suis acheté le... Alors, il y en a qui n'ont pas aimé, je sais, l'arc Get Mystique de Wolverine. Voilà, c'est 4 épisodes. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa à lire.
Qui n'avait pas aimé cet arc ?
J'ai pas lu, moi.
Je l'ai pas lu non plus.
Pas lu.
Moi, j'ai trouvé ça sympa.
Donc il reste que moi.
Il me semble que c'était toi qui m'as dit que c'était pas très...
Ah non, moi j'ai pas aimé du tout.
Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que bien souvent on est obligé de se rabattre sur la VO, où il y a encore beaucoup plus de disponibilité sur des vieux trucs, alors qu'en VF, je pense qu'il y a un marché à prendre sur une collection, comme ils essayent de faire une collection à bas prix, Oldies. Ouais. Ouais, mais vraiment Oldies, parce que House of M, Civil War, c'est encore...
Ouais, non, vraiment des trucs des années 70, 80, 90,
ouais. Ouais, voilà.
Tout à fait.
Et du TPB, quoi. Du TPB.
La partie la moins rééditée, c'est quand même les années 90.
Ouais.
En même temps, c'est la plus bordélique, hein, quand même. Parce que si tu dois rééditer la saga du clone, encore une fois, comment ça s'appelle ?
Bah, tu vois, par exemple, typiquement, la saga du clone, la trouver à prix abordable, mais j'achète direct.
Oui. Ouais.
Le problème, c'est que maintenant, quand tu trouves la saga du clone, que ce soit en librairie ou même dans des vieilles, des brocantes ou des choses comme ça, les gens qui le vendent savent que ça vaut de la thune. Et même quand tu regardes sur Internet, c'est cher.
Oui, mais remarque, la saga du clone en intégrale, elle est tellement importante, c'est quand même 2 ans de parution, que ce sera cher de toute façon.
Finalement. Oui, mais tu vois, par exemple, sortir, on va prendre un exemple tout con, mais par exemple un format style Walking Dead chez Delcourt.
Ouais.
Qu'une parution tous les 2 ou 3 mois, ouais. ça leur ferait un revenu régulier assuré.
Oui, enfin oui, j'espère.
Bah, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés par des rééditions de grosses sagas comme ça.
Ouais, j'espère.
Ouais. Ouais, je pense justement qu'il faudrait qu'ils tapent sur ces lecteurs-là. Je pense que là, ils tapent sur les lecteurs.
Faut qui taper sont, sur ces connards de lecteurs.
Table. Là, pense qu'ils ils sont sur les lecteurs, les lecteurs réguliers qui comptent garder. Peut-être des nouveaux lecteurs, probablement, on va dire, ados, jusqu'à entre 15 et 30 ans. Mais les lecteurs qui ont déjà commencé à connaître un petit peu, mais veulent aller un peu plus loin et relire des choses plus anciennes. Là, il y a un vrai, il y a rien en France là-dessus, ouais. quoi.
Peut-être
et c'est vrai que
des anciens lecteurs aussi.
Aussi, oui.
Des vieillards. Voilà. Les fameux vieillards dont on parlait.
Donc c'est vrai ouais. qu'il faudrait, je pense, tabler sur ces lecteurs-là, qui en France sont pas du tout. C'est une cible potentielle.
Ouais. Moi, ouais, j'adorerais relire des vieux trucs, quoi.
Qui n'est pas. On va leur faire un plan d'accord. marketing, hein, Nuno.
Carrément. Moi, je vote pour une réédition des Heroes Reborn. Ah, ça laisse de glace tout le monde, ça. Hein.
Mais écoute, non, mais honnêtement, ça pourrait aussi en intéresser.
À bas prix, je ouais. pense que les 12 épisodes, ça peut être super sympa.
Mais ouais. ouais. Non, mais je pense qu'il y a des trucs. Mais au fait, moi, je vote pour, puisque là, on a tout refait, donc je vote pour une réédition de tout ce qui est sorti en français depuis
le début. Mais non, mais je suis sûr qu'en plus, il y a des trucs qui sont jamais sortis en français.
Oui, bah alors je ouais. vote pour une réédition de tout ce qui est sorti plus ce qui n'est pas sorti.
Eh bien, voilà. moi, je veux une réédition. Ça peut pas être une réédition. Micronautes.
Hein? Ouh, c'est quoi ça?
Je connais pas.
C'est une vieille série de chez Marvel de Bill Mantlo. C'était des personnages tout petits qui arrivent dans notre monde.
Les mini Rome.
Ouais, c'est Rome. Les mini ouais, mais enfin, Rome, ils ont plus les droits. Le problème. Photonique, c'est français.
Non, mais c'est pas grave.
Ritz. Mais Rome, ils ont plus les droits, donc ils pourront pas. Oui. Puisque les droits appartiennent à Mattel. Mais les Micronautes, les droits appartiennent toujours à Marvel. Ah, quoique non. Parce que c'était des jouets aussi.
Bah, remarque, on a bien eu une réédition des Guerres Secrètes.
On a Bug qui fait partie des Guardians of the Galaxy, qui était un personnage des Micronautes, mais c'était un des personnages créés pour Marvel. Donc, enfin bon, c'est des trucs qui sont vieux qu'on peut trouver chez, je crois, Aredit Artima à l'époque, c'était sorti. C'est une vraie galère pour les retrouver aujourd'hui.
Ouais.
Et voilà, il y a pas mal de vieilles séries comme ça qui pourraient être intéressantes à publier. Des vieux Doctor Strange, par exemple.
Ouais.
Qui sont totalement introuvables en français. Pareil, qui sortaient chez Aredit Artima, donc...
J'aurais jamais lu.
C'est vraiment la galère pour trouver des trucs comme ça.
C'est des trucs que tu lis, là, en ce moment?
Ouais. Les ouais. vieux trucs que j'ai retrouvés dans ma collection et que je relis en ce moment.
Ouais, par, ouais. par voilà un joli Old Spoken à sortir.
Pas de pression. Hein.
Comment me mettre au pied du mur à l'antenne?
Non, mais il a beaucoup de montage à faire.
Non, je sais que je peux, boulot, allez,
tu sais
pas
que
je
peux couper
ça,
n'importe quelle partie, Nono. Et que personne n'entendra jamais ce que tu as dit. Je suis le censeur ultime. Bien, eh bien, c'est un débat beaucoup plus long que d'habitude.
Non, moi je dirais que c'est un débat habituel.
Voilà. C'est la marque de fabrique de Comic City, encore une fois.
On a eu des emmerdes.
Pour le débat qui était censé durer 20 minutes, on a démarré à 21h et là il est minuit moins 5.
Non, on a démarré à 22h30. Hein. 21h,
non, mais on a commencé à parler sur Skype à 21h.
Voilà. Oui, voilà, bon, on est à 1h25 d'enregistrement. Comment réduire ça en une demi-heure, je sais pas. Faut dire qu'on a eu beaucoup de problèmes de déco. Eh bien, Ino, ta première participation, ça t'a plu? Est-ce que tu reviendras seulement?
Quoi? Je vous entends pas. On va faire des messages en morse pour la prochaine fois.
En tout cas, pour nous, ça a été un vrai plaisir de t'avoir.
Ah ouais. Oh, je suis pas d'accord.
Hors antenne qu'on dit.
Ah oui, pardon, excuse-moi, ça enregistre touchement. Oui, pardon. Ah oh, oui, t'étais génial, franchement.
Voilà. Merci de ta participation.
Mais de rien.
Je sens que ça vient du fond du cœur, tout de suite.
Donc on t'a prévenu que pour revenir, il fallait payer. Hein.
Oui. Ah, mais j'ai compris qu'il fallait banaliser toute une nuit, par contre, pour la prochaine fois.
Ah, mais tout à fait. Tout à fait.
Oui.
Parce que techniquement... là, t'es pas encore dans le briefing d'après podcast qui va durer 3 heures.
Non, techniquement, ça se passe plus rapidement.
Ouais. Après, faut coucher toute une nuit aussi.
Là, faut avouer que ça a été particulièrement long.
Ouais.
Mais bon, c'est les problèmes, les aléas du direct que vous n'avez pas au montage.
Voilà.
Bref, on va reprendre le cours normal de notre émission, Benny et moi.
Allez, on va enregistrer des reviews toute la nuit. C'est parti. Ouais.
Oui, on dira pas qu'on les enregistrait cet après-midi en avance.
Non, on dira pas. On dira pas.
Et donc, merci à Claire, Sam, Nono et Ino de leur venue.
Ça nous a fait plaisir.
On se retrouve le mois prochain pour un prochain débat. Si tout va bien.
Salut. Si on n'est pas mort d'ici là.
Salut.
Au revoir. Salut. Les enfants.
Et on va commencer nos reviews du mois avec premier bloc Avengers, en kiosque en tout cas, le Marvel Heroes numéro 8. On commence donc avec les deux épisodes de Avengers Volume 4, donc c'est-à-dire les épisodes 8 et 9. C'est Brian Bendis au scénario, John Romita Jr.
Bah, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, puisque ça ressemble à du Romita, mais alors là, Romita pas très en forme.
Ouais. Et Klaus Johnson à l'ancrage, bien sûr. Et donc, on a les Illuminati qui vont se faire griller, tout simplement.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ils ont mal fait leur boulot, ils ont planqué des gemmes là où il fallait pas. Ils sont un peu cons.
Non mais voilà, grosso modo, les Illuminati se rejoignent parce que bah ils se rendent compte qu'il y a des choses qui vont pas. Et puis finalement, ils se font griller par Steve Rogers.
Voilà, et par le reste des Avengers.
Ce qui va valoir à Iron Man une jolie petite sanction dont on vous laissera découvrir le résultat à la fin du deuxième épisode. Mais voilà, j'attends de voir comment les choses vont être gérées.
Oui, puis on apprend comment, surtout, Red Hood, hein, on sait que c'est lui. Non, The Hood, d'ailleurs.
Oui, chez DC.
Donc, comment s'appelle-t-il ?
Parker Robbins.
Parker Robbins s'est emparé donc des gemmes en question, et on se dit que là, franchement, ils ont pas joué la sécurité. Hein.
Oui, non, mais de façon...
Surtout Black Bolt, surtout, enfin voilà.
C'est vraiment tiré par les cheveux depuis le départ. Hein. Bon, ça reste relativement sympa. Surtout de voir les Illuminati s'en prendre plein la gueule.
Oui. Mais en même temps, les Illuminati ne servaient plus à grand chose. Bendis les avait pas utilisés depuis très longtemps. Et maintenant, on se dit que une fois que leur secret était vanté, qu'on va plus les revoir du coup.
Qui sait ? Peut-être se reformeront-ils de nouveau en secret en faisant croire qu'ils se sont quittés quoi. Voilà.
Oui, qu'il y a eu de la dissension dans l'équipe. Et ouais, bah ça m'étonnerait quand même. Là, je pense que là, ça veut dire que bon, bah, il a fait le tour de la question. Et en plus, revoir Hood encore avec comme méchant principal, encore. C'est pas ce qu'il y a de plus original. Ouais.
Bah, bon, en tout cas, ça reste sympathique à lire. Bon, par contre, ça se lit vite.
Alors, tu le dis, j'aime.
Ouf. Oh, excuse-moi, il m'a fallu une petite seconde pour comprendre.
Oui, non, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ces deux épisodes, malgré tout, tu vois, assez sympa.
Oui, ça se laisse lire, c'est relativement agréable. C'est pas ce qu'on a lu de mieux, mais c'est agréable.
Ah bah, comparé à New Avengers, on en parlera tout à l'heure, j'ai préféré largement, en tout cas.
On en avait parlé à l'époque dans un Comics Weekly, et moi, j'aime toujours autant. Enfin, je trouve l'épisode très sympa, donc on en reparle tout à l'heure. On passe à l'épisode suivant, c'est l'épisode de Thor par Matt Fraction et Pascal Ferry, c'est le numéro 618. qu'est-ce qui s'y passe là-dedans Oui, voilà, tous les réfugiés des autres mondes, à sept autres mondes, puisqu'il y a Asgard, Midgard, mais il y a sept autres mondes dans la mythologie nordique, arrivent sur Asgard pour demander asile. Voilà. Ça avance pas, quoi.
Non, ça avance pas, et puis personnellement, les dessins, j'aime pas.
Bah, c'est spécial, ouais.
Ouais, c'est vraiment particulier comparé surtout à ce qu'on a eu avant. Voilà, ça fait pas. Et puis alors là, j'ai envie de te dire le retour à la fin sans vraiment le spoiler. Oui. Ça faisait genre ouais, salut, ça y est, j'ai enfin fini de. J'étais aux toilettes, je suis revenu, c'est bon.
Ouais, non, mais enfin voilà, c'est du Matt Fraction qui montre ses plus grands travers, c'est-à-dire la décompression à l'extrême, parce qu'on a quand même une scène où on a Iron Man avec Jane Foster, avec le fameux gars qui a compris ce qui se passe. Voilà, on discute, etc. On dirait que Matt Fraction se bendicise.
Oui, mais qu'il n'y arrive pas. Verbe,
quoi. En fait, voilà, qu'il le fait très mal, quoi.
Oui, ben c'est comme sur le Iron Man, hein, il n'arrive pas à faire du décompressé. Il veut faire du décompressé, mais il n'y arrive pas. Du coup, c'est très très lourd à lire. Alors que Bendis, c'est fluide.
Ouais, mais à la rigueur, enfin voilà, ça se lit correctement en trade, quoi. Enfin, quasiment en arc d'un coup, quoi.
Le Bendis.
Le Bendis ou le Fraction, quoi. Quand on lit toute l'histoire d'un coup, on se dit, ouais, effectivement, c'est sympa, mais quand on attend des mois et des mois entre chaque morceau de l'histoire, on se fait chier, quoi.
Bah, écoute, on parlera d'Iron Man tout à l'heure, mais lire deux numéros à la suite, j'ai trouvé ça très très chiant.
Ouais, voilà, mais quand t'as l'ensemble de l'histoire au final, tu te dis, ouais, l'histoire est pas mal, quoi. C'est ça que je veux dire, mais c'est vraiment le fait d'attendre, pour Iron Man, le cas, enfin je veux dire, si on en est à la partie 9 de cet arc-là, attendre 9 mois pour lire la fin de
moins,
cette
moins, parce que ils en ont foutu souvent, je crois.
Oui, en double, mais je parlais en VO, quoi, en tout cas, si on le lit vraiment au rythme VO, 9 mois entre le premier et le dernier épisode, et avec ce côté, tout ça pour ça, voilà, on a l'impression d'avoir perdu 9 mois de notre vie, quoi.
Non, on a surtout l'impression qu'il aurait pu faire la même histoire tout aussi bien, même mieux, en 5 épisodes quoi, au lieu de 9
oui.
par exemple.
Ah oui, facile, facile.
C'est surtout ça, on le ressent moins dans la lecture française parce que on a les trucs plus vite. Ouais. Mais
Et puis qu'on a surtout d'autres choses à côté qui permettent de ouais, pondérer un petit peu l'achat du magazine.
Bon, en tout cas, l'Altor, vraiment le plus mauvais épisode du mag, hein, je pense. Hein.
Ah ouais, ouais, pour moi aussi, ouais, c'est franchement très chiant. Et c'est dommage parce que Matt Fraction était tellement bien parti sur ses one-shots qu'il avait fait de Thor que je comprends pas comment on peut faire des choses aussi sympas dans des one-shots et faire des choses aussi mauvaises quand on obtient enfin la série régulière. Quoi.
Est-ce qu'il est pas bon dans, dans la décompression ? Il faut pas qu'il essaye de faire traîner en longueur et c'est ce qu'il fait malheureusement tout le temps et ça cache totalement son travail.
Alors même si l'arc précédent de Kieron Gillen était un peu trop mythologique et un petit peu trop je partais dans tous les sens, je commence déjà à regretter Kieron Gillen, pour ma part.
Ouais, moi aussi, ouais. Plus ça va, plus la série Thor est indigeste.
On en reparlera encore dans quelques mois.
Quel dommage.
On passe au dernier épisode du MAG, c'est le Avengers Academy numéro 7. Christos Engage au scénario, Mike McCone au dessin, Dave Meikis et Scott Hanna à l'ancrage. Et donc là, c'est un épisode qui est centré principalement sur Hank Pym. On voit qu'il doute, quoi. Il doute de lui-même. On va avoir tous ses doutes et ses certitudes qui vont un petit peu s'écrouler ou être mises en avant par les autres membres de l'équipe, notamment les autres profs aussi.
Bah, enfin, ça reste drôle, hein, parce qu'on a l'impression que quand tu dis ça, c'est vraiment l'épisode sérieux, mais...
C'est ça qui est très fort chez Christos Gage, quoi, c'est qu'il est capable de nous faire un épisode où finalement le personnage que l'on va suivre est vachement mis à mal dans sa psychologie, tout en étant un épisode agréable à lire, parce qu'il y a des choses sympas qui s'y passent. Quoi.
Avec le méchant qui va bien pour faire un épisode justement assez fun.
Ouais ouais un petit coup d'Absorbing Man, mais Absorbing Man finalement il n'y a pas si tort que ça quoi. Bon après il y a des passages
que t'allais faire un jeu de mots justement.
Ah non ah oui mais j'aurais pu mais en fait non non c'était pas
possible. Surtout
pas
que c'en est un ennemi régulier hein,
de bien temps. Évidemment oui. Enfin franchement la scène où ils sont tous les deux gigantesques et qui se bastonnent dans la ville avec les pieds dans l'Hudson River, c'est n'importe quoi.
Oui mais c'est drôle.
C'est drôle mais c'est n'importe quoi. Voilà, enfin, on a l'impression d'assister à un combat, je sais pas, Godzilla, King Kong, quoi.
Mmh. Oui, mais c'est démesuré justement, alors que c'est un personnage il se rend bien compte qu'il est en perdition, qu'il est plus du tout parmi les plus grands héros Marvel, quoi.
Oui, c'est clair.
Donc c'est ça qui est drôle, c'est cette prise de conscience et la démesure du combat qu'il mène ensuite. Enfin voilà. Tout ça pour dire que dans l'ensemble, le magazine est sympa.
Ouais. Avengers Academy est une fois de plus, pour moi, le meilleur épisode du mag. Au niveau fun, au niveau choses qui s'y passent, mais le mag est sympa, quoi.
Ça se lit bien.
3 sur 4, c'est pas mal.
Ouais.
Allez, vite fait, on va faire le Stars, puisque toi, tu ne l'as pas lu, hein, Benny, tu n'as pas
non,
eu le temps.
Non, j'ai même pas récupéré celui du mois dernier.
Ouais.
il traîne, voilà, je suis pas à jour dans ma lecture des Marvel Stars. Pourtant, celui que j'avais lu, donc le 6, du coup, m'avait semblé pas trop mal. J'en garde un bon souvenir.
Mais là donc on a dans ce Marvel Stars numéro 8 le Secret Avengers numéro 10 donc par Ed Brubaker, Mike Deodato et Will Conrad au dessin. Bon, c'est la fin de l'arc avec le père de Shang-Chi.
Ah d'accord, je crois que c'est ton 12.
Non, c'est dans cet arc-là, enfin dans cet épisode-là que ça se termine. On
partira. Alors est-ce que cet arc était meilleur finalement que le premier sur Mars?
J'ai toujours un peu de mal avec cette série quoi. C'est bon, là l'ambiance me plaisait plus que l'ambiance sur Mars, mais bon. Voilà. Est-ce que...
Non, est-ce qu'il y avait besoin d'être des Secret Avengers pour faire la mission qu'ils font là, par exemple?
Non, pas forcément.
D'accord. Parce que la première, pas du tout. Aller sur Mars et être une équipe secrète, ça sert strictement à rien. Quoi.
Pas forcément. Et encore une fois, ça se concentre principalement sur Steve Rogers. Cette fois-ci, Shang-Chi. Mais par exemple, les personnages comme Moon Knight, mais qui même s'ils ont une importance dans cette histoire-là, ne servent un petit peu à rien, puisqu'on on les voit, quoi. Trois cases à tout péter, quoi.
Par contre,
c'est ridicule.
Je crois me souvenir de ce que j'avais vu, que le méchant fait très peur.
Oui, enfin, c'était dans cette fameuse scène dont tu avais parlé pour le numéro 6, justement, de Marvel Stars. Mais bon, on le voit plus aussi bien, généralement. Quoi. Bon, le prochain épisode, on verra. Le prochain épisode risque d'être assez intéressant, puisque ça va être un retour sur le passé et quelques explications. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner.
Okay.
Après tout, c'est bientôt fini pour Brubaker, donc on verra si la série repart.
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été très inspiré, quoi. Ça se voit.
Ensuite, on a les Secret Warriors 23 et 24 par Jonathan Hickman, Alessandro Vitti et David Marquez. Alors là, c'est vraiment excellent. Enfin, moi, autant ces derniers mois, la série avait un peu baissé. Je la trouvais toujours sympa, mais elle avait un peu baissé. Et là, il se passe des trucs de malade. Je vais essayer de pas trop spoiler, On a le retour d'un personnage dans les Secret Warriors. C'est facile à deviner qui. On voit aussi ce par quoi il est passé pendant qu'il n'était pas dans l'équipe. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a aussi un petit peu la formation et puis le sort de la fameuse Grey Team, l'équipe où il y a le fils de Nick Fury.
D'accord.
On a droit à de belles surprises, quoi. Donc je vais vraiment pas en révéler, c'est vraiment super sympa. Il y a un cliffhanger monstrueux. Donc voilà, enfin, pour moi, c'est du très très bon.
Et moi, je trouve que toujours qu'il y a trop de personnages, trop d'équipes, c'est dommage. Il s'est pas assez concentré sur l'équipe principale des Secret Warriors, il est parti dans tous les sens.
Ben, là, franchement, moi, je te conseille vraiment de lire ces épisodes parce que chaque épisode est vraiment concentré sur une des équipes. On s'y retrouve vraiment très facilement.
D'accord. En même temps, il est obligé de conclure ses différentes intrigues maintenant.
Oui, parce que la série arrive bientôt à son terme.
Ouais.
Pour finir, on avait la fin du Thunderbolt 150 qui avait été publié en deux fois, puisque bah, épisode double, donc on publie en deux fois, sinon ça prend trop de place, on peut pas faire un numéro de 120 pages exceptionnellement. Donc Jeff Parker au scénario, Kev Walker au dessin. Bon, grosso modo, je vais vous faire le pitch des deux, puisqu'on n'avait pas parlé le mois dernier. Hein. Luke Cage a décidé de quitter un peu l'équipe. Il y a une inspection qui est faite par Cap, Iron Man et Thor. Et puis Ghost, Juggernaut et Crossbones vont essayer de s'enfuir, va se passer un petit truc dans un espèce de monde parallèle. Voilà, bon, est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir? Quelles seront les pertes? Ça, je vous laisse voir la fin de l'épisode. C'est pas transcendant. C'est sympa, mais c'est pas transcendant, quoi. On n'est pas au niveau des Thunderbolts qu'on a eu connu il y a de ça, pas loin d'un an maintenant.
Ouais, c'est ouais.
Bon, ça reste agréable à lire, quand même. Donc, dans l'ensemble, pour moi, un Marvel Stars qui est plutôt pas mal, notamment pour Secret Warriors.
D'accord.
Après, le reste.
Voilà. Moyen.
Voilà, moyen. On passe maintenant au dernier, c'est le Marvel Icons numéro 8.
Ouais.
Et on commence avec le New Avengers 7, donc par Bendis, Immonen et Wade von Kraft-Badger à l'ancrage. Bah, c'est un épisode super calme, de discussion. Et en fait, c'est dans ces épisodes-là qu'il se passe le plus de trucs.
Oh non, Bah, disons que moi, enfin, quand je dis ça, je me dis, bon, pour moi, les Avengers, c'est vraiment l'équipe de super-héros qui vivent des aventures extraordinaires. Enfin, je veux dire, on se souvient des grandes sagas, enfin de toutes les grandes sagas qu'ils ont vécues à travers les années, notamment dans Strange, t'avais des épisodes mémorables des Avengers. Mmh. Et là, maintenant, on en arrive à une période où on te raconte limite comment vont faire Luke Cage et sa petite famille pour acheter des pâtes, pour manger, la liste des courses, comment on va s'occuper de changer la couche du bébé. Enfin, je veux dire, c'est... Mais, au secours. Alors,
deux raisons à ça, parce que premièrement, on a la série Avengers qui va se charger de ça avec des grandes sagas, parce que genre, on a vu la première saga dans le futur, machin, la deuxième saga, c'est face aux gemmes de l'infini, donc c'est vraiment les gros trucs, et là, en fait, on voit bien que c'est l'équipe de second couteau d'Avengers, quoi, c'est cette nouvelle génération d'Avengers, beaucoup plus présent, et le personnage qui arrive à la fin, je vais pas révéler qui va rejoindre l'équipe, mais il le dit très bien, c'est le plus grand show de télé-réalité qui n'a jamais été, qui est pas diffusé, en fait. Et je pense que Bendis essaye de suivre cette voie-là. C'est pour ça que moi, ça me fait marrer. Enfin, moi,
oui,
j'aime bien, quoi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Enfin, on parle de la reconstruction, on parle du fait des salaires, on parle, encore une fois, de l'identité de Spider-Man, oui et non. Enfin, voilà, il y a beaucoup de vannes qui s'échangent. À la rigueur, le seul truc qui me fait un peu chier, c'est qu'on voit que Bendis, en tout cas, nous décrit Wolverine vraiment comme un glouton qui passe son temps à bouffer, quoi.
Bon, en même temps, le Wolverine, c'est un glouton, je crois que ça veut dire comme ça. Ça
ouais.
Le cerval.
Mais... Jamais on le voit dans d'autres séries, mais dévoré à ce point-là, quoi. Là, on le voit tout le temps, il a toujours de la bouffe, une cuisse
comme
de poulet à la main,
oui.
Un truc comme ça.
C'est son Goku. Mais, moi, ce qui me saoule un peu, c'est que Spider-Man, par exemple, ça fait rêver dans le sens où, t'es un gamin, tu t'identifies à Spider-Man et il vit des choses extraordinaires. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'équipe de super-héros qui se met au niveau du lecteur. C'est-à-dire, ils ont une vie, mais vraiment pas du tout ce qui ne fait pas du tout rêver. C'est, ils sont dans une, ils ont des problèmes de salaire, de bouffe, de regarder leur bébé, etc. Enfin, ils ont des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est
finalement,
c'est comme si Luke Cage, c'est comme si Luke Cage allait bosser, au hasard dans une grande surface.
Au hasard, hein.
Au hasard, tout à fait au hasard. Et voilà, et qu'on avait tout un épisode là-dessus. Alors, c'est peut-être marrant. C'est sûr qu'il peut se passer des trucs très drôles, mais bordel, ça fait pas rêver. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est les mêmes problèmes qu'avait Peter Parker au départ, quoi.
Mais ça faisait rêver parce qu'il y avait toujours une dimension. D'un seul coup, tu tombais dans l'extraordinaire. C'était dans l'ordinaire le plus total et tu basculais dans l'extraordinaire. Là, il n'y a pas de basculement. C'est tout l'épisode, c'est vraiment une scène qui pourrait se passer dans n'importe quel groupe d'amis ou n'importe quelle famille.
Bah, disons que si ça avait été rédigé par Stan Lee à l'époque, ça aurait fait 12 pages. Et le reste, ça aurait été un combat contre un super vilain.
Ouais.
C'est du Bendis, c'est de la décompression, quoi. Mais moi je trouve que l'épisode est vraiment intéressant. Après bon ben voilà, c'est vraiment chacun ses goûts. On reste un peu sur notre fight Avengers ou Avengers quoi. Mais bon, après je sais pas ce que vaut la série parce que je n'ai pas suivi du tout en VO, donc ça va être de la découverte pour moi dans les prochains mois. Peut-être que la série va sombrer. Jusque là, moi ça me plaît.
Relativement, je pense qu'il y a quand même des choses un peu intéressantes qui vont arriver.
Oui ben, j'espère quand même, parce que bon, ça c'était marrant un épisode, mais tu vois, c'est parce que c'est un épisode. Ça
avec
un arc en 6, ça m'aurait mais saoulé quoi.
Avec du Howard Check-in, puisque tu l'adores.
Ça dépend des fois.
Bon, ben je sais qu'il y aura du Howard Check-in sur New Avengers. Si je dis pas de bêtises, hein, si
oui,
je me
oui,
pas
parce que les épisodes vont être coupés en deux, il y a deux histoires parallèles, si je me rappelle bien.
Eh ben au moins il se passera des choses.
Oui, on verra bien, ouais. La suite, c'est donc deux épisodes d'Iron Man, le numéro 32 et 33, bon, on va pas rester trop longtemps là-dessus, parce qu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, par Matt Fraction et Salvador La Roca. Ça signe la fin de la série Invincible Iron Man volume 5, on reprendra la numérotation au numéro 500 pour le prochain épisode.
Ah, oui,
c'est la fin de l'arc Stark Resilient. Bon, tout est bien qui finit bien à peu près.
J'ai bien aimé le twist final, j'ai apprécié ce petit... pas ce petit revirement, parce que c'est pas vraiment un revirement, mais... ça augure de choses intéressantes.
Ouais, il y a vraiment que ça, et encore, ça paraît un peu facile, quoi.
Oui, ça paraît un peu facile, voilà. C'est bon, on peut deviner, à la rigueur, quand je dis ça, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Qu'est-ce qui pourrait se passer. On peut le deviner. Par contre, comment dire, le reste de l'histoire, là, c'est chiant, c'est long.
C'est mou du genou, hein.
C'est vraiment mou. Et le problème, c'est que la Roca a des dessins très beaux, quand il dessine des armures, mais très statique. Donc ça accentue en plus cette impression de il ne se passe rien. Je veux dire, on devrait être dedans, on devrait être dans l'action, il y a Tony Stark qui prend sa bagnole, qui fonce à je ne sais combien de kilomètres heure pour arriver à temps. On ressent pas du tout cette sensation de allez vite, il faut que j'y arrive, je suis pressé, quoi.
Ouais, c'est clair.
On ressent absolument pas ça. Au contraire, on s'emmerde. J'ai cru qu'ils allaient nous faire un épisode entièrement compte à rebours. D'ailleurs, j'ai eu peur. Parce que si ça avait été ça, une page, une minute, non, pitié, quoi.
Ah, ils auraient pu. Hein.
Ouais. Non, mais enfin, bon, c'est pas terrible, terrible. Mis à part la fin, justement. On verra où ça nous mène, tout ça, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises, quoi. Il aurait pu s'amuser beaucoup plus.
Ben oui, mais... voilà. Soit je vais répéter la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, donc voilà.
Ou quand ce qu'on a dit il y a des mois, puisque c'est un petit peu une redite hein, ouais. D'un arc qu'il avait fait avant. D'où la fin, d'ailleurs.
Oui, exactement, en plus, parce qu'on a vraiment l'impression que plus ça change, plus ça reste les mêmes, quoi.
Exactement.
Il y a un côté Captain America voilà, aussi.
Ouais. Ouais. Mais en moins bien écrit.
Oui, exactement.
Et en bien plus long.
Le dernier épisode du Mike, c'est le Fantastic Four numéro 582 avec Jonathan Hickman au scénario, Neil Edwards au dessin, Scott Hanna à l'ancrage. C'est donc Nathaniel contre Nathaniel hein, dans une scène qui rappelle The One avec Jet.
Ah totalement, c'est ça. Hein.
Et ouais, c'est pas la partie la plus intéressante, franchement. La partie la plus intéressante vient vers la fin avec le sort de Val et Franklin du futur.
Ouais, et je dirais dans cet épisode, le problème c'est que c'est tout le contraire de ce que fait Matt Fraction, c'est que Hickman, il te fait tellement de trucs, tellement de subplots, que à la fin, tu te dis bon.
Ça va où?
Ça va où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va se rejoindre à un moment donné? Alors oui, ça va se rejoindre à un moment donné, mais bordel, il va vraiment falloir quasiment tout relire à force. Parce que les mois passent et j'avoue que j'oublie des éléments qu'il a mis en place précédemment. Et là, dans cet épisode, il se passe 36 000 choses finalement.
Oui, oui, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Ça va à 100 à l'heure. Ça va à 100 à l'heure. C'est-à-dire que finalement, le cliffhanger du dernier épisode est réglé en 5 pages. Et après, on passe à autre chose, quasiment.
Ouais, peut-être pas 5 pages, mais une dizaine, ouais. Ça prend à peine la moitié de l'épisode, quoi.
Ouais. Le temps de régler le problème de The One, comme tu dis. Mais bon, c'est intéressant, hein. c'est bien
ah
fait.
Oui, oui, ça reste super sympa, mais bon, voilà, quoi. C'est pas la partie la plus intéressante du numéro, quoi.
Non, mais enfin, je veux dire, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, mais pour qui commencerait à lire du Fantastic Four maintenant, va falloir qu'il s'accroche. Hein.
Faut savoir qu'en plus, il lit sa série avec son autre série, Shield, donc ça devient compliqué, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Bah oui, puisque Nathaniel faisait partie de Shield.
C'est vrai. Oui, il fait son Hickman World, quoi. C'est-à-dire, il y a le Millar World. Hickman, vraiment, suit le même chemin.
Ben, j'ai tendance vraiment à préférer le Hickman, même si c'est plus confus, quoi.
En même temps, il y a moins de séries, quand même. Il y a moins de séries qui comment dire? Il y a moins de séries, et puis c'est plus des séries qui vont ensemble. Alors que le Millar World, quand tu bosses à la fois sur, Old Man Logan et puis Fantastic Four, c'est sûr que, ou 1985, voilà, c'est difficile de lier les trois, a priori.
A priori. Bon, allez, on va passer à la suite. Bon, un Icons qui est, alors pour toi, je pense que bof.
Ouais, très très bof. Au fait, ouais. Mis à part Fantastic Four, j'avoue que je me suis pas mal emmerdé à la lecture de cet Icons.
Pour moi, ce sera juste un Icons moyen. Il y a la moitié des trucs qui m'ont plu. Voilà. Bon, les Iron Man sont sympas, mais vraiment pas essentiels, quoi. Comme d'habitude. On va passer au Marvel Icons hors série numéro 22 avec l'arc 3, le fameux arc qui a fait couler tant d'encre aux États-Unis. Donc c'est...
Qui a fait couler tant d'encre surtout de la part de Marvel, qui a teasé à mort, parce que finalement les fans n'en ont pas tant parlé que ça. Ça s'est un petit peu essoufflé du coup à force de trop teaser.
Et puis surtout de révéler qui c'était le mardi alors que le comic sort le mercredi.
Exactement.
Merci, bon, alors
maintenant, si vous ne savez pas qui c'est, vous avez bien de la chance.
Donc, Jonathan Hickman au scénario, bien sûr, Steve Epting au dessin. Donc, ce sont les épisodes 583 à 588.
Alors, disons-le tout net, d'ailleurs, 5,60€ pour ça, c'est-à-dire un TPB américain.
Hein, ouais, il y a 140.
Un TPB en français, je veux dire, mais c'est vraiment le même format, même nombre de pages. C'est vraiment la meilleure affaire du mois, j'ai envie de dire.
Ah oui, mais là, c'est très très bon. En plus, je veux dire, l'arc est excellent. C'est un moment, on va dire, historique quand même, hein, dans l'univers Marvel. Franchement, faut pas passer à côté.
Bah, néanmoins, tu vois, je l'ai lu d'une traite. C'est sympathique, ça se lit très vite, très bien. Pourtant, il y a de la lecture, hein, il y a un nombre d'épisodes assez conséquent, il y en a 6. C'est bon, mais... Alors peut-être parce que je savais déjà qui allait y passer, j'avais lu quelques épisodes en VO, mais ça m'a pas tant marqué que ça. Et je me dis, ça m'étonnerait que ça reste permanent, en fait. Cette situation.
Bah, de toute façon, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé à l'époque où on l'avait traité dans Comics Weekly. Si vous faites le calcul, la série s'est arrêtée au 588. Elle sera relancée bientôt sous le titre FF, au numéro 1. Si on fait le calcul, au numéro 12 de FF, on sera l'équivalent 600 de Fantastic Four.
Ouais.
Donc, il y a de fortes chances que FF ne dure que
12 numéros.
Donc, voilà, 11 numéros, et puis que le 12e soit le numéro 600. On connaît déjà la réponse maintenant, puisque ça a déjà été teasé aux États-Unis. On ne vous le dira pas pour ceux qui ne lisent que du français. On verra si c'est justifié ou pas. C'était l'interrogation qu'on avait à l'époque. On sait maintenant la réponse. Reste à voir si ça s'est bien produit ou pas. Vous verrez ça dans la prochaine année, on va dire, en France. En tout cas, est-ce que les choses seront permanentes ou pas? Ben, on n'a toujours pas la réponse.
Bon, mais, alors. Bon,
ça reste un très bon arc.
Bah oui, alors, on raconte un peu?
Ouais, très vite fait, quoi.
Alors.
Vas-y.
Bah écoute, non, mais grosso modo, chacun des membres des 4 Fantastiques est un petit peu retenu sur une affaire particulière. Donc d'un côté, il y a Mister Fantastic qui doit gérer un problème avec Galactus, puisque Galactus a trouvé la version de lui-même, c'est un peu compliqué, dont Reed Richards s'était servi pour l'affaire du New World, c'est-à-dire qu'il avait dégommé un Galactus. Donc Reed Richards a des comptes à rendre à Galactus et au Silver Surfer. Jane Richards, elle, est Atlantis et doit gérer son nouveau statut, on va dire, pas son statut Facebook, mais son statut d'Atlante, et c'est plus compliqué.
Enfin de porte-parole de cette nouvelle civilisation atlantéenne.
Voilà, donc c'est tout un programme et c'est plus difficile qu'un statut.
Nouvelle ancienne, on va dire.
Oui, c'est ça. Donc il y a toute la tension qu'il existe déjà entre elle et Namor, bien sûr. Et d'un autre côté, enfin, il y a Johnny Storm, Ben Grimm, qui a repris son apparence humaine. Et donc, bah, eux doivent gérer avec Franklin et Valeria une espèce de percée d'Annihilus qui ressort de la zone négative. Et du coup, donc chacun, quasiment, il y a trois groupes, on va dire. C'est normal, d'ailleurs, ça s'appelle Three. Haha, c'est bien fait. Voilà, trois groupes qui sont à gérer trois grosses affaires. Et l'un des quatre fantastiques ne s'en sortira pas indemne.
Ah bah il ne s'en sortira pas tout court. Voilà. On peut le dire clairement, il s'en sortira pas tout court.
Alors il ou elle d'ailleurs.
Donc voilà, on vous laisse découvrir la finalité de cet arc par vous-même. Mais franchement, ne passez pas à côté de ce numéro hors série parce que c'est vraiment excellent.
C'est très très bon. Si vous n'êtes pas fan des 4 Fantastiques, c'est le numéro qu'il vous faut, puisque à mon avis, ça va vous rendre fan. Enfin, si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas les 4 Fantastiques. Hein. Là, c'est fini.
Ouais, faut essayer, et puis surtout à ce prix-là, quoi.
Oui, oui, en plus, voilà. Puis alors, les dessins, c'est pas de la Camelot, hein. Steve Epting. Je veux dire, autant de pages de Steve Epting pour 5,60€, déjà, en soi, c'est la meilleure affaire du mois. Et de l'année. Enfin, non, ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'une des meilleures affaires de l'année, à mon avis. Et faut vite se précipiter dessus parce que ça part très, 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 très vite.
Normal, c'est du kiosque, donc ça part vite. Ouais. Allez, on va passer vite fait au bloc X-Men, si on peut appeler ça comme ça, avec le X-Men Universe numéro 7.
D'ailleurs, c'est le seul dont on va parler.
Dont on va parler, oui.
La seule revue. X-Men numéro 7. Donc, très vite, il y a deux numéros d'X-Men, les numéros 5 et 6, si je dis pas de bêtises.
Oui, qui sont la fin de l'arc des X-Men contre les vampires, Curse of the Mutants, blablabla, toutes ces conneries par Victor Kischler.
Victor Kischler et qui ça au...
Paco Medina, je crois.
Paco Medina. Au dessin. Bah, personnellement, pour moi, on m'en a dit tellement du mal, surtout toi Steve, que bah, j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Et comme je te disais l'autre fois, ça m'a rappelé un petit peu certains arcs de Chris Claremont où t'avais genre les X-Men qui faisaient face à une menace et il y avait forcément l'un des membres de l'équipe qui était possédé et puis qui se retournait contre son équipe. Enfin, il y a une espèce de dimension épique qu'on trouvait dans les anciennes aventures. C'est sans prise de tête puisque finalement ça a très peu d'incidence sur la suite. Mais non, moi je trouvais ça sympathique. Voilà.
Moi je l'ai pas relu. Hein. Franchement, ça m'avait gonflé à la première lecture. J'ai vraiment lutter pour terminer cet arc-là. Et j'en garde un très mauvais souvenir. Vivement que Kischler s'en aille du titre.
Bah écoute, voilà. Non, mais enfin, moi, par rapport à ce que j'ai pu lire récemment de Marvel, j'ai trouvé ça pas si mal. Donc ça veut dire que la suite en VO, enfin, qu'on aura en VF prochainement, ça risque de pas être terrible, terrible, du coup, pour que je dise ça.
Oui. Bah, le prochain arc est encore un dur moment à passer, mais après, ça ira mieux.
Non, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est en général, hein, sur l'état vraiment Marvel, Marvel général, je trouvais voilà cet arc des X-Men pas si mauvais finalement.
On a continue. X-Force ensuite.
Oui, Uncanny X-Force par
Rick Remender et Jérôme Opeña.
Voilà, Jérôme Opeña. J'allais dire Paco Medina, mais non, Jérôme Opeña, super beau graphiquement, vraiment c'est assez incroyable. Par contre, niveau scénario, bon, toujours ce premier arc qui n'est décidément pas du tout mon préféré.
Ah non, non plus.
Voilà, ça traîne un peu beaucoup. Ça fait penser un peu à du Fraction, là, pour le coup. Ils sont à la recherche de la nouvelle incarnation d'Apocalypse. Ouais. Bon. L'équipe ne me convainc pas pour le moment. Enfin, c'est vraiment pas les meilleurs épisodes, et après, ça devient excellent.
Reste le dernier numéro de Daken Dark Wolverine.
Qui, lui, est pas intéressant. Franchement, enfin, on voit que c'est... c'est pas pour dire que, voilà, je suis pas misogyne non plus, hein, mais on voit que c'est une scénariste en partie hein, au scénario, puisqu'elle est épaulée par
Daniel Way. Mais Daniel il y a Marjorie Liu, donc.
Marjorie Liu, qui nous fait une histoire toujours assez portée sur les... je sais pas comment dire... psychologie sentimentale, enfin, je sais pas trop comment le définir. Voilà. Bon. C'est pas intéressant, quoi. Il n'y a pas vraiment d'action. C'est vraiment... on nous montre encore une... comment dire, une facette de Deacon qui est un petit peu inintéressante.
Ok, donc un X-Men Universe 7 qui t'a quand même moyennement convaincu, quoi, on va dire. Par X-Men, quoi.
Bah ouais, mais étonnamment, tu vois, c'est X-Men peut-être que j'ai préféré.
Bah pour moi, c'est un pass, hein, ce numéro. Voilà, quoi.
D'accord.
Intéressant. Très vite, le Marvel... que dis-je, le X-Men hors série numéro 3. Les 6 premiers épisodes de Daken, Dark Wolverine, plus un petit bout du one-shot Wolverine Road to Hell qui servait d'introduction à la série. J'ai lu le premier épisode, donc c'est Daniel Way, Marjorie Yu et Giuseppe Camuncoli au dessin.
Ah.
Bon, ça m'a absolument pas convaincu, donc j'ai lu que le premier numéro. Voilà, donc après je vous laisserai vous faire votre propre avis. En même temps, voilà, 5,60€, 144 pages, quoi. C'est le même prix que pour les 4 Fantastiques. Si vous avez le prix que pour un mag supplémentaire, bah revoyez-vous sur les 4 Fantastiques, ce sera quand même nettement mieux. Moi voilà, ça m'intéresse absolument pas. Peut-être que c'est très bien, mais je suis pas rentré dedans et donc j'ai préféré arrêter au premier numéro.
D'accord. Et les dessins graphiquement, Giuseppe quand même.
Oh bah c'est du Giuseppe, donc voilà, si on aime pas son style habituellement, on n'aimera pas son style là non plus. parce que c'est du Camon Colli comme on a l'habitude d'en voir, avec un trait assez sombre, assez torturé quand même. Mais voilà,
c'est toujours assez rentre dedans quand même, c'est gore. C'est...
Ouais, ça rentre dedans, Mais voilà, ça me plaît pas. J'aime pas ce petit con de Daken, quoi. Ça, j'ai envie de le frapper, quoi.
D'accord.
Je pense que c'est fait exprès, hein, mais c'est juste que moi, ça m'accroche pas. Donc, bah, on a terminé notre petit bloc X-Men. On va passer rapidement au Spider-Man que tu t'es infligé.
Oui, Spider-Man 140, je l'ai relu. Et bah, figure-toi que c'est mieux passé que la première fois. donc, en fait, c'est les deux premières parties de One Moment in Time. Joe Quesada au scénario, au dessin, en partie, puisque l'autre partie est signée Paolo Rivera, qui, c'est bizarre, à l'époque, je n'avais pas été accroché par son style. J'avais pas aimé, et finalement, je trouve ça pas si mal, le style de Paolo Rivera.
Ah oui, non, son style est très bon, mais après, c'est l'histoire, moi, que je peux pas.
Ouais, en fait, j'étais tellement dégoûté par l'histoire. Ben, en fait, lire ça back-to-back, parce qu'au fait, à l'époque, j'avais lu en temps réel, hein, j'avais dû attendre 2 semaines entre chaque numéro, je crois, à peu près.
Ouais, si mes souvenirs sont bons, ouais.
Et du coup, voilà, j'avais pas du tout aimé. Là, la pilule passe mieux, l'histoire... Alors il y a de grosses lourdeurs, mais c'est pas si mal écrit. Je veux dire, les relations entre les personnages sont pas si mal écrites. Bon, par contre, il y a des trucs hallucinants. Joe Quesada qui déclare que comme en fait ils peuvent pas avoir d'enfants s'ils se marient pas. Bon, je vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave. Enfin, c'est du Joe Quesada, quoi. Il a une vision un peu particulière des couples, et aussi le fait que Spider-Man, bah, au fait, Mary Jane lui dit qu'elle peut pas l'épouser parce qu'il reste Spider-Man. Bon, c'est à se demander ce que font les policiers, les pompiers, enfin c'est exactement pareil, quoi. Donc bon. Il y a une vision des choses assez particulière, Joe Quesada.
Ouais, bah moi c'est tout l'ensemble, hein. Le faucon, enfin l'espèce de chouette ou l'oiseau, le moineau, je ne sais plus ce que c'était.
Mmh. Bah, c'est surtout la première partie qui est assez miteuse. La seconde passe déjà mieux, même si ça n'a pas de sens. Je sais pas, enfin j'ai un peu plus apprécié cette seconde lecture que la première, va savoir pourquoi. Peut-être que parce que je suis résigné. je sais que de toute façon c'est pas prêt de changer, hein, c'est les nouvelles origines, on va dire. Il y avait juste aussi 2 petites histoires tirées de Web of Spider-Man. Toutes les deux écrites par J.M. DeMatteis.
Donc déjà ça sent meilleur.
Voilà, et toutes les deux portant sur Ben Reilly. Donc c'est assez intéressant. 2 histoires tiré au fait de l'époque où Ben Reilly traversait les États-Unis. Alors pour des nouveaux lecteurs qui commenceraient Spider-Man avec One Moment in Time et d'un seul coup on leur met du Ben Reilly, inutile de dire qu'ils vont rien comprendre, mais vraiment que dalle, puisqu'on ne te parle absolument pas de Ben Reilly dans la postface, hein, on ne te parle que de One Moment in Time. Bon bah écoute, voilà, enfin pour ceux qui ont connu Ben Reilly, donc le clone, c'est quand même sympa.
D'accord.
Ça se lit bien, c'est pas transcendant, on ne fait pas de grosses révélations, mais c'est quand même bien sympathique ces 2 petites histoires. Donc rien que pour ça, ce Spider-Man 140 n'est pas totalement acheté à la poubelle.
Ouais, bon, moi je persiste à dire qu'ils auraient mieux fait de publier tout d'un coup. Hein. Comme ça c'était fait.
Oui. D'un autre côté, je crois qu'on va avoir hors série avec toute la saga.
Oui, Origin of the Species, le mois prochain. Mais pour moi, ils auraient mieux fait de publier Omit en un coup et c'était fait, quoi.
Oh bah en deluxe, directement.
Non, mais il est publié dans un numéro classique, enfin dans le numéro 140, mais publié les 4 épisodes. C'était largement faisable.
Ouais.
Bref, avant de passer à la suite des reviews, on va laisser place à notre ami Jean-Loup, comme tous les mois maintenant, avec sa rubrique.
Back to the Comics, et ça va faire du bien d'ailleurs, puisqu'après on attaque avec du très lourd, du très gore qui tâche.
Alors c'est d'accord. On vous laisse nos doubles et en échange, quand viendra notre heure, vous laisserez nos âmes tranquilles.
D'accord.
Et en plus, on vous laisse d'heure Jean-Lauréane en souvenir. Bon, maintenant on ferait mieux de filer avant qu'il se réveille.
Allez, debout, bande de fainéants.
Comment on est arrivé là?
Bonjour à tous et bienvenue en enfer.
Ah bon? On n'est pas dans Back to the Comics?
Attends, ça me revient. C'est ces enfoirés de doubles qui nous ont assommés et envoyés ici, n'est-ce pas? Et puis d'abord, vous êtes qui, vous?
On m'appelle le Diable.
Mais vous avez pas un petit prénom?
Non, le Diable, c'est très bien.
Le Diable, c'est très bien. Vous chuchoteriez pas un petit peu par hasard?
Pas du tout.
Dites Belzébuth pour voir.
Belzébuth?
Dites Satan pour voir.
Satan?
Dites les chaussettes de l'archiduchesse pour voir.
Les chaussettes de... Bon, ouais, ça suffit maintenant. Vous êtes ici pour me servir, alors n'oubliez pas qui est le maître. Si j'ai racheté vos âmes, c'est que j'ai besoin de vos services. Voyez-vous,
hein, mais... Quoi? Pardon, Clément Rouge, je nous fais son monologue, là. On devrait en profiter pour filer avec la Jean-Lauréane.
Bonne idée, allons-y.
Allez, Marc, qu'est-ce que t'attends?
J'aimerais bien, mais je dois t'avouer quelque chose. Je sais pas conduire.
Quoi? Tu as une voiture et tu sais même pas t'en servir?
Et à la base, c'est une machine à voyager dans le temps, je te signale.
Oui, mais il y a tout ce qu'il faut pour rouler avec. Bon, et c'est pas grave. Fonce dans le temps, on verra bien quand on atterrit.
Ok.
Bon, c'est fini, connerie.
Mais on a changé d'époque et vous êtes toujours là?
Mon idiot, vous ne savez pas que l'enfer est un lieu en dehors du temps? Bref, comme je le disais, je voudrais que vous me rameniez mon fils.
Lequel?
Comment ça, lequel? Anungunrama, bien sûr. Il est parti étant enfant et je n'ai plus de nouvelles de lui depuis.
Anungun... vous voulez dire... Hellboy?
Oui, c'est le nom que ces sacrés humains lui ont donné. Ce gosse, c'est toute ma vie. Il était promis à un grand avenir. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'il s'en aille.
Eh, pleurez pas, monsieur. On va le retrouver, nous, votre gamin.
C'est vrai?
Mais bien sûr, si ça peut vous faire vous sentir un peu moins seul.
Alors ramenez-moi Hellboy, et c'est la chaude.
Mais comment on va faire pour sortir de cet enfer si notre Jean-Lauréat ne marche pas ici?
C'est facile. Il vous suffit de suivre le couloir indiquant l'année où vous voulez vous rendre, et vous tomberez directement dessus. Et au niveau des portes, chaque poignée correspond à un jour précis. Maintenant, au boulot, bande de larves.
Dis donc, pas facile le patron, hein. Bon, par quoi on commence?
Ben, par les débuts, non? Hellboy est un personnage créé par Mike Mignola qui a fait sa première apparition dans une mini-série en 1994. Cette année-là, Bill Clinton et Boris Elstein signent les accords du Kremlin, visant au démantèlement d'une partie des stocks d'armes nucléaires des deux pays. Malheureusement, la paix dans le monde n'est pas encore une réalité puisqu'en avril de cette même année, un attentat au Rwanda marque le début du génocide ethnique entre Tutsi et Hutu.
T'as pas quelque chose de plus gai à nous annoncer?
Eh bien, au cinéma sort le chef-d'œuvre de Spielberg, inspiré d'une histoire vraie.
Ah oui, Jurassic Park.
Mais non, la liste de Schindler.
J'avais dit plus gai, pas plus déprimant.
C'est aussi en 1994 que sort Pulp Fiction de Quentin Tarantino, qui obtiendra la Palme d'Or à Cannes et de nombreuses autres récompenses dans divers festivals.
Tiens, on arrive devant la porte. Bon, et maintenant?
Ben, je suppose qu'on l'ouvre et qu'on voit ce qu'il y a derrière.
Ça va mieux. Bon, faut trouver Hellboy maintenant.
On n'a qu'à l'appeler. Hellboy! Hellboy!
Hellboy! Youhou!
Pardon, monsieur. Bonjour, mon fils. Bonjour, mon père. Dites, vous n'auriez pas vu Hellboy dans le coin par hasard?
Qui?
Hellboy, le fils du diable, quoi!
Par le Saint-Père, encore un jeune possédé par la télévision et autres inventions du malin! Dieu ait pitié de vos âmes, mes enfants. Dieu ait pitié de vos âmes.
Bon, si en attendant tu nous en disais plus sur la série Hellboy.
D'accord. Hellboy arrive sur Terre le 23 décembre 1944, lorsqu'il est invoqué par Rasputin en personne dans le but d'aider l'armée nazie à gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais l'incantation ne se déroule pas comme prévu, et Hellboy apparaît dans une église en Angleterre, loin des nazis. Il est rapidement recueilli par l'armée américaine et adopté par le professeur Trevor Bruttenholm, qui lui donnera son nom. Le jeune singe rouge grandit rapidement et intègre le Bureau de Recherche et Défense en Paranormal, communément appelé BPRD, pour enquêter sur les phénomènes surnaturels tout autour du monde. Mais c'est bien des années plus tard, quand il sera rejoint par Liz Sherman, la pyrokinésiste instable, et par Eb Sapiens, l'homme-poisson aux bonnes manières irréprochables, que se dérouleront ses meilleures aventures. En France, il faudra attendre 1996 pour lire les premières aventures de Hellboy dans Les Germes de la Destruction, publiées à l'origine par Dark Horse France. Dans ces pages, Hellboy en apprendra plus sur ses origines et sur la raison pour laquelle il a été envoyé sur Terre.
Pour qu'on se prenne la tête à le retrouver?
Mais non, pour ouvrir le passage sur Terre à des créatures des temps reculés, dignes des œuvres de Lovecraft. Parmi les influences évidentes de Mike Mignola pour le scénario, on retrouve donc des références aux maîtres de l'horreur cosmique, mais aussi des auteurs tels qu'Edgar Allan Poe ou Bram Stoker, dont il a lu le Dracula à 12 ans. Si son inspiration vient principalement de la littérature victorienne du 19e siècle, les mythes et légendes dont il s'inspire pour les aventures de son personnage sont de nature internationale. Ainsi, il évoquera dans ses récits des monstres aussi divers que les yokai du folklore japonais, mais aussi Baba Yaga, la sorcière russe, ou encore des démons classiques de la tradition chrétienne telle que Moloch.
Et tu sais ce que ça me rappelle? Des petites figurines de collection qu'on s'échangeait à l'école quand on était petit.
Mais oui, les Monsters in My Pocket. Apparus en 1991, ces ancêtres des Pokémon faisaient fureur dans les cours de récré. On y trouvait des monstres classiques tels que le loup-garou, le vampire, mais aussi Baba Yaga justement, ou encore le Kraken. Bon, pas sûr que Mignola se soit inspiré de ces jouets pour Hellboy, mais en tout cas, le fantastique était dans l'air du temps à ce moment-là.
En attendant, pas de trace de Hellboy ici. Tu es sûr que c'est l'année de sa première apparition?
Bah en fait, le personnage de Hellboy est apparu quelques années plus tôt. C'est à la Comic-Con de San Diego de 1993 que paraît pour la toute première fois le personnage dans une courte histoire de 4 pages distribuée lors du festival.
Quoi? Et tu pouvais pas le dire plus tôt? Mais c'est là-bas qu'il faut aller chercher les boys. Bon, on retourne en enfer, on reprend la porte de 91 et on part pour San Diego.
Pardon, excusez-moi, vous auriez vu Hellboy? Hellboy, un grand gars rouge avec des cornes limées et une queue, non?
Madame, s'il vous plaît.
Touchez pas à mes comics, voyou!
Eh, mais elle va se calmer, la vieille! Bonjour, l'ambiance, hein. Je suis pas venu ici pour prendre des baffes.
Excusez-moi, monsieur, je cherche le stand de Mike Mignola.
Tu viens juste de le rater, mon gars. Il est parti il y a de ça un quart d'heure, hein. C'est qu'il a du talent, ce petit gars.
Et comment? Après avoir réalisé quelques travaux d'ancrage chez Marvel, Mignola commence à dessiner quelques numéros de Hulk, d'Alpha Flight et de Rocket Raccoon. Mais c'est vers la fin des années 80 que son style unique se développe et la reconnaissance arrivera avec ses illustrations de Cosmic Odyssey en 1988 et Gotham by Gaslight en 1989 pour DC. Mike Mignola remportera d'ailleurs l'Eisner du meilleur artiste et scénariste deux années de suite, en 1995 et 1996, pour son travail sur Hellboy.
Bon, ressortir la bio de Mignola, là, j'ai rien contre, mais ça nous aide pas à retrouver Hellboy, tes anecdotes.
J'ai bien une idée, mais je sais pas si ça va marcher.
Bah, faut tout essayer. Tout, plutôt que de rester en enfer. Il paraît qu'ils écoutent du Obispo en boucle là-bas, tu te rends compte?
Bon, suis-moi, on a un dernier saut à faire avant de retourner voir le diable.
Hein? Une librairie? Mais tu crois vraiment qu'Hellboy se cache dans une librairie? Mais t'es malade, mon pauvre garçon. Le seul démon qui est là-dedans, c'est celui de la collectionnité aiguë. Franchement, quelle idée de passer son temps dans une boutique de... Oh, une animalerie! Regarde ces petits dans la vitrine, ils sont trop mignons!
Bon, mais... attends-moi là, je reviens tout de suite.
Hein? Oui, vas-y.
Et de retour en enfer.
Pom, 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 pom. Oh! Déjà? Mais ça fait même pas 5 minutes que vous... Oh, bah oui, c'est vrai. Cette histoire de temps, j'oublie toujours.
Oh, grand maître, nous n'avons pas réussi à retrouver votre fils.
Comment? Et vous osez vous présenter les mains vides devant moi? Misérable!
Avant que vous n'abattiez sur nous votre colère, j'ai quelque chose à vous montrer.
Des bandes dessinées qui portent son nom? Mon fils est célèbre. Mais dites-moi, vous avez eu ses aventures? Est-ce qu'il prépare bien l'apocalypse comme je le lui ai appris?
Eh bien, c'est-à-dire que la première mini-série Hellboy a tellement bien marché qu'elle a connu de nombreuses suites qu'on peut trouver en France aux éditions Delcourt. Tous les tomes sont très intéressants. Cependant, pour ceux qui préféreraient aller à l'essentiel, Les Germes de la Destruction, Au Nom du Diable et Le Ver Conquérant forment une trilogie apocalyptique à lire absolument.
Tu as fait du bon travail, mortel. Et toi, que m'apportes-tu dans cette boîte percée?
Et votre rougeur, je ne suis pas venu les mavides non plus. Comme j'ai compris que vous aviez besoin de compagnie, je vous ai acheté ce modeste présent.
Voyons voir ça. Un lapin?
Alors, j'ai droit à quoi comme récompense, chef-chef? Hein, dites?
Mais bougre d'andouille, j'ai peur des lapins. Éloignez-moi cette horreur de ma vie immédiatement.
Disons que vous nous rendez notre liberté et on vous en débarrasse.
Et puis quoi encore? C'est qui commande ici? Non mais oh! Ah, il est en train de regarder.
Que vous voulez?
Non. Reprenez vos âmes, votre liberté, mais par pitié, débarrassez-moi de ce petit monstre. Il est trop mignon. Il est trop mignon, moi ça me fait peur.
Ok, marché conclu.
Et reprenez votre Jean-Lauréane tant que vous y êtes. Fais ce que j'irai faire d'une machine à voyager dans le temps en enfer.
Eh bien, chapeau, félicitations, je pensais pas, mais tu nous as tiré d'un mal embarras.
En attendant, moi et mon lapin, je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux, hein mon mignon?
Au fait, on fait comment pour repartir?
Comment ça?
Ben, je te rappelle qu'on ne peut pas sortir d'ici avec la Jean-Lauréane en voyageant dans le temps, donc on est obligé de rouler jusqu'à la sortie. Et comme je sais toujours pas conduire...
Bon, ça va, j'ai compris. Je conduis cette fois, mais dès le mois prochain, je te donne des cours de conduite. Ah, et je te préviens, ce soir, c'est toi qui fais la cuisine.
Bon, d'accord. Et au fait, tu voudras manger quoi?
Oh ben, un truc simple, quoi. Un petit CV.
Passons à la suite avec la sortie du 14e tome de Walking Dead par Robert Kirkman et Charlie Adlard. Et ce sont les épisodes 79 à 84. L'arc s'appelle No Way Out, aucune possibilité de s'en sortir.
Sans issue.
Oui, voilà. Ouais. Et bah c'est justifié, hein, puisque à la fin du dernier tome, on avait donc des gens qui voulaient s'infiltrer dans ce nouveau campement dans lequel ils sont depuis maintenant un petit moment déjà. Et ça s'était réglé en gunfight monstrueux, ce qui avait donc attiré pas mal de zombies, puisque on sait maintenant qu'ils sont attirés par le sang. Nous avons une horde de zombies qui...
Par le son. Je précise pour les gens qui auraient entendu sang, parce qu'on pourrait croire...
Oui, désolé, je parle encore un peu du nez.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais même si tu l'as bien prononcé, on pourrait imaginer ça.
Non, mais oui, effectivement, tu fais bien de me reprendre. Et donc, voilà, on a une horde de zombies qui va déferler sur ce campement. Et est-ce que le campement est prêt à supporter une attaque d'une telle ampleur?
Voilà, non, en fait, le problème, c'est qu'ils se sont barricadés. Et là, ils se rendent compte que, à s'être barricadés comme ça, une fois qu'il y a des zombies tout autour, ils ne pourront jamais en ressortir.
Alors bon, il va falloir élaborer quelques stratégies qui seront plus ou moins payantes, des fois moins que plus.
Voilà. Pour le moment, ils ont un maximum de provisions, ils peuvent tenir des mois. Le problème, c'est que, au bout d'un moment, il va bien falloir trouver une solution. Est-ce qu'il ne faut pas tout de suite prendre les devants et essayer de voir comment s'en sortir en cas de problème? Surtout que l'une des façades commence à montrer des signes de faiblesse.
Et sachant aussi que leur meilleur tireur, Andrea, est dans une tour un petit peu à l'extérieur du campement, faisant le guet.
Voilà.
Que donc elle est partie sans provision, sans rien.
Et oui, elle se retrouve coincée, il faut la rejoindre. Il se passe énormément de choses, des situations toujours plus stressantes les unes que les autres.
Il va y avoir des pertes encore une fois dans ce volume, hein, et des grosses pertes même.
Ouais, c'est vraiment là, en fait, jusqu'au milieu du volume, on se dit, bon, on est encore dans un volume très calme, posé. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très très long à lire.
Bah, c'est bien.
Oui, c'est bien. Non mais en plus...
Savoure.
En plus, on le savoure parce que c'est très intéressant, la tension est palpable, mais on se dit, est-ce que ça va exploser dans ce volume-là? Et quand ça explose, c'est juste phénoménal. Au fait, là, Robert Kirkman nous a fait un doublé, c'est-à-dire que sur une page, on se dit, oh là là, c'est terrible, il a osé, et on n'a même pas le temps de se remettre du choc, que deux pages après, on a un choc, mais gigantesque.
Encore plus grand, ouais, encore plus grand. Ouais.
Encore plus grand. Oh, quoique, entre les deux, j'ai envie de te dire, la première scène est peut-être ce qui m'a le plus marqué, finalement.
Mais il y a vraiment, on pourrait, enfin, on va pas le raconter puisque de toute façon on va pas spoiler, mais c'est vrai qu'on pourrait passer des heures à raconter ce qui se passe parce qu'il se passe énormément de choses. Autant au début ça reste assez calme, autant quand ça démarre, il se passe tellement de trucs à la fois que on est vraiment le souffle coupé. C'est impressionnant.
Il arrive à ce qu'il se passe des choses qu'on ne prévoit pas. C'est-à-dire que, ok, d'accord, on se doute bien que va y avoir un problème, que une clôture pourrait péter, etc. Ça oui, mais ensuite, le déroulement de l'action, enfin les conséquences de ça sont, c'est incontrôlable quoi. C'est il se passe quantité de choses et
quand bien même on se doute qu'il y a une déclôture qui va lâcher, on est incapable d'imaginer pourquoi elle lâche. Et quand on a l'explication de pourquoi elle lâche, ben on se rend compte de pas mal de choses quoi. On prend conscience de tout un tas de problèmes qu'il y a à travers ce campement.
Ouais, et c'est enfin c'est vraiment l'un des meilleurs volumes de la série sorti récemment.
Oui, non mais même, rétrospectivement, quand on reprend tous les volumes, il fait partie facilement du top 5 des meilleurs, quoi.
Ouais.
Voire peut-être même du top 3, honnêtement.
De toute façon, écoute, moi je vais te dire, hein, si on peut faire un petit top 3, allez, soyons fous. Il y avait un volume qui m'avait vraiment marqué, c'était l'arrivée chez le gouverneur, forcément. Enfin, toute cette saga, donc ça devait être les volumes 5-6, par là. Le volume 11, de mémoire, si je me gourre pas, Les Chasseurs, m'avait vraiment vraiment marqué.
Oui, parce qu'il est très glauque, très très glauque.
Ouais. Généralement, les gens s'en souviennent. Ça fait partie des passages, vraiment, qui sont le plus marquants. Et puis voilà, enfin, il y a ce volume-là. Et puis, bon, si je devais en mettre un petit quatrième, allez, bonus, quand même, l'arrivée dans la prison.
Ouais, toute la saga de la prison est très intéressante, quoi.
Ouais.
J'espère qu'on va, enfin, on verra après ce qui va rester de ce campement à la fin, mais j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir une base d'opération plus stable, quoi. Comme on a vu pendant la prison, c'est-à-dire pendant une bonne vingtaine, trentaine d'épisodes, quoi.
Mais moi, je pensais à, je sais pas, une espèce d'embarcation sur l'eau, pour éviter justement d'être attaqué comme ça par des zombies, puisque ce serait plus simple, mais alors, faudrait trouver une sorte de capitaine qui puisse manipuler, enfin conduire un espèce de...
Tu me fais une transition toute trouvée pour le prochain truc dont on va parler. Parce que c'est un thème qui est abordé dans le...
Oui, oui.
Dans le volume suivant. Bon, en tout cas, un Walking Dead, comme d'habitude, on passe pas à côté. C'est une obligation.
Ah bah, de toute façon, c'est la meilleure série comics. Pour peu qu'on soit un lecteur averti, adulte et vacciné, parce que on va pas lire ça à 14 ans. Hein. C'est quand même... On peut, mais c'est quand même très très dur. Hein.
Allez, on va passer à la suite. Deuxième volume de Crost, qui marque la fin de la première mini-série, avec les épisodes 5 à 9. Garth Ennis est toujours au scénario, Jason Burroughs est toujours au dessin. Les survivants de cette épidémie vont tenter de rejoindre l'Alaska.
Ouais.
Parce que dans l'Alaska, il y a moins de gens. Donc, s'il y a moins de gens, il y a potentiellement moins de Crost.
Et alors là ?
Aussi simple.
Oui, oui. Et autant j'avais abordé cette série en me disant, bon, à mon avis, ça va être de la violence gratuite, ça va être un sous-Walking Dead, et bah pas du tout.
Il y a des passages de violence qui sont vraiment dégueux, surtout que c'est de la violence qui... C'est pas uniquement de la violence. Enfin, on a de la violence, on a du sexe,
oui,
on a des viols, on a de la pédophilie, mais jamais...
c'est jamais gratuit.
Non, mais... c'est jamais trop au point d'avoir envie de dégueuler, quoi.
Non, mais enfin, le truc, c'est que, bon, de toute façon, c'est expliqué, hein, pourquoi il y a tout ça. Garth Ennis se fait plaisir, c'est vrai que ça reste du Garth Ennis, on va pas nous la faire à l'envers, le mec est quand même vachement rentre dedans, et s'il peut nous foutre un truc qui choque le bourgeois, il va y aller. Enfin, je dis ça comme ça. Mais, néanmoins, enfin, autant le premier volume, il y avait des grosses scènes bien gore, bien choquantes, autant là, on est quand même globalement bien plus dans la psychologie, bien plus dans l'attente, bien plus dans le dialogue que dans le premier volume, j'ai trouvé.
Oui, pareil. De toute façon, déjà, les deux premiers épisodes, on ne voit quasiment pas les Crosts.
Et ça fait penser furieusement, du coup, encore plus à du Walking Dead, mais à du bon Walking Dead. C'est pas juste le côté gore du truc, c'est vraiment le côté aussi psychologique. Là, ça m'a fait penser à la période où ils étaient justement dans cette fameuse prison et où il y avait que du dialogue.
Comme tu disais tout à l'heure, le coup du bateau, ils en parlent justement. Bah, on vous laissera voir s'ils vont utiliser cette solution ou non et pourquoi. Parce que c'est assez marrant, mais voilà, l'idée est abordée, quoi. Et ça, ça m'a fait marrer.
Puis on retrouve vraiment des... Enfin, je veux dire, quelquefois, on se dit, mais est-ce que c'est Kirkman au scénario? Parce que le coup du vieux, là, je l'ai pas vu venir du tout.
Terrible, terrible.
Pas du tout. Et c'est... Là, franchement, j'ai envie de dire, c'est du grand Kirkman. Et tu vois, j'ai pratiquement envie de dire ça, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Garth Ennis, eh ben, mine de rien, c'était pas gagné au début, et il arrive à faire du Walking Dead. C'est-à-dire, c'est aussi bon que Walking Dead. Et j'en viens à regretter que, ça s'arrête finalement, parce que c'est juste une mini.
Alors, il va y avoir une suite, enfin, je sais pas si elle sortira en français, mais en tout cas, il y a des suites.
Si ça a du succès, si ça se vend bien, Cross, à mon avis, on aura la suite.
Il y a une deuxième mini-série, il y a même une troisième mini-série en cours actuellement. Par contre, ce n'est plus Garth Ennis, c'est David Lafemme. Ouais. Donc là, ça me laisse craindre le pire.
Je l'ai lu en VO, la deuxième série. C'est quand même pas mal, en fait. C'est quand
D'accord.
même pas mal.
D'accord.
Ben, alors, par contre, c'est vrai que là, c'est on passe un cran. C'est... dans le malsain, dans le gore...
Bon, en même temps, le thème m'a assez intéressé et Garth Ennis a fait un très bon boulot de départ et m'a donné envie d'aller voir la suite, même si c'est pas écrit par lui.
J'espère qu'on l'aura en français quand même, cette suite.
Et c'est sorti chez Milady, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas précisé. Et Milady sort pas énormément de choses, mais ils ont tendance à sortir quand même des choses relativement sympas, qui sortent vraiment des sentiers battus.
Oui, oui, qui sortent de l'ordinaire, c'est vrai. Enfin là, bon, c'est le Walking Dead de chez Milady, quoi, on va dire. Hein. C'est un petit peu leur.
On va dire ça comme ça, ouais.
On a eu la trilogie de Warren Ellis dont on a parlé.
Là, ils sortent beaucoup de choses chez Avatar, hein, chez Milady.
Voilà, c'est ça.
C'était sorti chez Avatar aussi aux États-Unis.
Et puis Lock and Key, dont on n'a pas parlé la dernière fois.
Oui, c'est vrai.
Très très bonne série aussi.
Qui sort chez IDW cette fois-ci aux États-Unis.
Donc des trucs effectivement un peu plus adultes, un peu plus...
Oui, et puis beaucoup d'Heroic Fantasy aussi, puisque les éditions Milady sortent aussi des romans, et pas mal de fantasy, et donc ils ont sorti des adaptations de Drist, Donjons et Dragons aussi, récemment.
Et sans oublier leur grand succès, c'est quand même Scott Pilgrim. Même si je n'aime pas Scott Pilgrim, à mon avis, ça a bien fonctionné.
Ben, je l'espère pour eux. Et qu'ils continuent longtemps, parce qu'en plus, leurs éditions sont très sympas. Donc ils font un très bon boulot et qui continuent. Donc, Crost, allez-y, hein, franchement. Si vous êtes un peu en manque d'histoire comme ça à la Walking Dead, jetez-vous dessus. Et vous
c'est le bon doublé. Hein. Il n'y en a pas un. Enfin, si, bon, Walking Dead reste au-dessus parce que voilà, c'est Walking Dead. Mais Crost arrive quand même à justement atteindre un niveau très 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 bon.
Allez, on passe à la suite, on va rester dans le
truc. Dans le bien gore.
Violent et gore, même si, bon, Crost l'était moins cette fois-ci, hein, avec Nemesis.
Oui, Nemesis, donc j'en avais largement parlé dans des weekly l'an dernier, justement, il y a un an.
Je ne l'ai toujours pas lu.
Et bah...
C'est un oubli de ma part. Hein. C'est vraiment un oubli, j'avais oublié que ça sortait ce mois-ci. Donc
voilà, ça sort en intégrale forcément, il n'y a que 4 épisodes en français, donc en format 100%, en format... Enfin non, c'est même pas le format 100% d'ailleurs, je sais plus comment ils l'ont appelé. Enfin, c'est comme Kick-Ass, quoi. Ça sort dans ce format-là, ça coûte 11€, c'est donc Mark Millar, Steve McNiven. Alors le pitch de base, c'était si le Batman était le Joker, c'est-à-dire si Batman était totalement déviant, était un gros psychopathe. Au final, c'est pas vraiment ça non plus, parce que bon, on fait pas dans la psychologie, hein. C'est vraiment...
Pourquoi ça m'étonne pas?
Oui, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Au fait, Nemesis, à lire comme ça le truc en intégralité, les 4 épisodes back to back, c'est pas non plus si mauvais, c'est-à-dire que c'est quand même assez drôle finalement. C'est tellement énorme, il en fait tellement des tonnes, des caisses, que ça en devient drôle, et le plus intéressant chez Millar, c'est toujours ce qu'il ne développe pas. Alors, c'est rageant. C'est-à-dire que la fin de Nemesis, il y a quand même un petit twist au final qui fait tout l'intérêt du truc et que Millar ne développe absolument pas, c'est-à-dire il pose une idée, tu te dis ah tiens finalement c'est intéressant, il y a quelque chose, mais malheureusement on ne verra jamais, ou sans doute jamais, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un Nemesis volume 2, on ne verra jamais le résultat de ça, quoi. Et pour le petit twist final, ça rachète une partie, on va dire, de cette histoire très très. Enfin, je veux dire, bon, c'est le truc, c'est du Jungle Girl, quoi. C'est, enfin, c'est pas du tout du Jungle Girl, mais je veux dire, c'est vraiment le truc à lire. Y a pas besoin de réfléchir. Hein, c'est du grand n'importe nawak, mais dessiné par Steve McNiven, qui est peut-être pas à son meilleur niveau, mais bon, ça reste quand même sympa. Enfin, moi, j'aime bien.
D'accord.
Bon, voilà, c'est du grand n'importe quoi. On passe quand même un moment pas si désagréable que ça. Je l'avais vraiment descendu parce que je trouvais ça très con, mais dans l'ensemble, bon, voilà, c'est un truc popcorn, quoi. On va dire, c'est le truc qui, comme une grosse série B qu'on mate avec des potes pour rigoler.
D'accord. Bien. Bon bah, faites-vous votre avis vous-même, hein, si vous savez pas trop quoi penser.
Bah, c'est-à-dire que voilà, le problème c'est que c'est toujours vendu comme quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est vraiment une série B quoi, une série Z même, on va dire. c'est Millar qui nous fait une série Z, alors que c'est vendu comme le film, comment dire, le blockbuster quoi. C'était ça qui m'avait énervé à l'époque. C'est tout ce tapage alors que non, enfin, franchement c'est un truc assez ridicule. Mais néanmoins sympathique, voilà. Bon. Passons à quelque chose
oui.
Vachement bon, par contre.
Oui, que je n'ai pas lu par manque de temps.
Le 100% Vertigo, comme il l'appelle, Scalp numéro 4 par Jason Aaron et Erem Guerra. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, d'ailleurs, il y a un autre dessinateur. Je crois que c'est juste le temps de deux épisodes, au fait.
David et Fourneau.
Ah d'accord, bah voilà, il était au fourneau donc pour deux épisodes.
Ouh là là.
Au niveau high level, high in the sky.
Ah, moi je dis level au moins 72 de blagues quoi.
Ouais, un petit truc comme ça. Moi je dirais 3 lol sur 5. Hein. Enfin bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Et alors, étonnamment, la star de ce volume 4. Ce n'est pas Dashiell Badhorse.
Qui n'est pas franchement la star de la série à mon goût, mais.
Bah c'est un petit peu le Vic Mackey de Scalp, quoi, en fait. C'est un petit peu le flic ripou.
Ouais, enfin moi je lui trouve pas de charisme.
Mais voilà, c'est ça le problème. Bon bah là. Ah quoique dans le volume 3, tu avais lu le volume 3 quand même.
Bien sûr.
Voilà. Le volume 3, puisqu'on n'en avait pas parlé finalement, je crois. Qui était très très bon. C'est-à-dire que Scalp, honnêtement, au début, j'ai pas spécialement accroché, et de volume en volume, je trouve ça de mieux en mieux. Donc c'est vraiment une série à lire absolument. C'est très 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 bon, et ça devient de mieux en mieux. Donc c'est la particularité de cette série, c'est que quand même, bien souvent, ça s'essouffle, et bah là, pas du tout. Il y a une espèce de montée en puissance comme ça. En tout cas, Badhorse avait, j'ai trouvé un peu plus de charisme dans le troisième volume, mais là on le voit pas du tout. Enfin on le voit beaucoup moins en tout cas. On le voit surtout au début, c'est pas l'arc le plus intéressant. La partie la plus intéressante dans ce volume, c'est tout ce qui tourne autour de. Alors je crois qu'il s'appelle le jeune, là, attends, que je retrouve son nom. Dino pour bien. Le jeune indien, rappelle-toi qu'on avait vu dans le second volume, notamment, qui veut quitter la réserve, qui a des rêves de. Bah, comment dire,
de grandeur, des rêves d'Amérique.
Des rêves d'Amérique, voilà. Il a le rêve américain, mais il ne le vit pas du tout, ce rêve américain. Et,
majorité des Indiens, de toute façon.
Voilà, il essaye de quitter sa vie de misère. Et, c'est assez terrible, parce que c'est une longue descente aux enfers qu'il vit dans ce numéro. Et on le vit avec lui, et c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est vraiment la star de cette série. Dino Pourbire. C'est vraiment le pauvre, voilà, c'est vraiment, il porte bien son nom, hein, c'est vraiment le pauvre mec, ça va de mal en pis pour lui, c'est assez terrible. Et là, je comprends un peu plus pourquoi la série est interdite au moins de 16 ans, parce que y a vraiment des scènes assez gore dans ce numéro, assez insoutenables psychologiquement parlant.
D'accord.
Mais c'est de mieux en mieux. Honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. On a eu le volume 4 assez vite, finalement, après le volume 3, puisque le volume 3 était assez en retard, faut dire. Est-ce que Panini nous sortira un cinquième volume? Je ne pense pas.
Bah oui, puisque maintenant c'est Dargo qui a récupéré les droits, donc
on verra. Par contre, j'espère que Dargo prendra vite la relève, parce qu'il me tarde de découvrir la suite de Scalped, qui est vraiment ce que Jason Aaron a fait de mieux haut la main. Jason Aaron, pour moi, est fait pour écrire des séries comme ça, pas pour écrire du super-héros, parce que ce qu'il a fait jusque-là sur du super-héros, c'est pas terrible.
Ouais, je suis entièrement d'accord.
Voilà. Que dire de plus?
Achetez-le.
Je crois que, oui, bah oui. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Hein. C'est vraiment le jeune indien qui vole la vedette dans ce volume. Et il se passe quantité de choses finalement, encore une fois.
Oui, parce que c'est une série qui avance. Au début, en tout cas, elle prend son temps sur le premier, voire le deuxième arc. Et ensuite, il se passe beaucoup de choses.
Enfin, je sais pas si ça va te plaire ce que je vais dire, mais. En tout cas, ça plaira à mon avis à bon nombre des auditeurs, mais là, ça m'a fait penser à un volume de 100 Bullets. Il y a quand même un côté vraiment 100 Bullets dans ce volume assez prononcé.
Bah, je ne déteste pas 100 Bullets, hein. C'est juste que bah, y a tellement de choses à lire à côté, et j'ai lu les 15 premiers épisodes et j'ai pas été plus soufflé que ça.
Mais c'est très inégal. 100 Bullets, le gros problème, c'est que c'est très 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 inégal. T'as des volumes qu'on oublie vite, et d'autres qui sont vraiment très très puissants, et là ça m'a fait penser à l'un des meilleurs volumes de 100 Bullets que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, notamment une scène assez assez gore, quoi, en rapport avec une mâchoire, je vais pas en dire plus.
D'accord, écoute, quand je le lirai, je penserai à toi.
Ah bah, de toute façon, ça va te marquer, hein, cette scène. C'est la scène la plus graphique du volume, donc voilà. Bah, achetez Sculpt, comme Walking Dead, c'est un incontournable.
Très bien, on passe à la suite, un numéro spécial, le Thor pour Asgard. C'est donc en 100% Marvel. C'est écrit par Robert Roddy, et au dessin, on a Simone Bianchi, enfin dessin, peinture, quoi. Et donc, c'est une mini en 6 épisodes. Alors, c'est assez compliqué de résumer. Asgard est vraiment bloqué avec un hiver qui dure depuis plus de 26 mois. Baldur est mort.
C'est pas le petit hiver, voilà.
Non, c'est pas le petit hiver, non. C'est pas le truc comme on a chez nous avec trois bouts de flocons, on fait ah, au secours. Là, c'est 26 mois d'hiver, quoi. Il n'y a plus rien qui pousse.
Ah, 26 mois, d'accord. Donc c'est plus d'une année, c'est sympathique.
Plus de 2 ans, même.
Plus de 2 ans, oui, tout à fait.
Alors en plus, les craintes, puisque la prophétie de Ragnarok était que, avant Ragnarok, il y aurait 3 ans d'hiver.
Ah oui, d'approche.
Odin est parti.
Tiens donc, il est parti sur un télésiège.
Pour régler des affaires, et Thor a pris la relève. Il doit gérer à la place de son père. Pour ne rien arranger, tous les autres mondes autour d'Asgard, donc celui qui contient les géants des glaces, celui qui contient les trolls, les nains, je me rappelle plus les noms des mondes, hein. C'est assez imprononçable en plus quand on n'est pas du nord.
Comme du nord de la France.
Voilà, par exemple, se révolte. Thor va emmener des guerriers à chaque fois pour aller simplement casser la gueule à ceux qui se révoltent et empêcher que Asgard perde un petit peu ce qu'ils ont conquis et reste un petit peu les maîtres. Ce qui a tendance à créer des dissensions au sein même d'Asgard, puisque certains sont contre ces violences et ces réprimandes face au peuple qui se révolte, principalement parce qu'ils ont faim, puisque eux aussi sont engouffrés dans cet hiver, parce que l'hiver touche vraiment tous les mondes, sauf le nôtre, bizarrement.
D'accord. Et en plus, il a niqué son forfait remontée mécanique, donc autant dire que c'est la merde.
Et pour rien arranger, depuis qu'il est devenu le régent d'Asgard, Thor ne peut plus soulever son marteau. Donc c'est un Thor qui se trouve vraiment bloqué à travers les problèmes politiques.
Plus bas que terre.
On a un peu l'impression de revoir ce qui avait été un peu fait dans le run de Dan Jurgens quand il était régent à la place d'Odin.
Il y a la pousse barre là ?
Non, il est Thor tel qu'on le connaît. Avec une jolie armure faite par Simone Bianchi. Ça rappelle aussi un petit peu ce qu'avait fait Straczynski au moment où c'était Thor qui régnait un petit peu sur la ville. Bref, pas mal de choses hyper intéressantes. C'est quand même très long à lire, c'est très dense, mais ça reste une bonne mini-série.
Ah ben, ça a l'air d'être plutôt bon, hein. Tu compares ça quand même à des bons moments de Thor.
Ouais, après faut voir. Ça plaira pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a de l'action, mais pas que. Il y a beaucoup de scènes de dialogue uniquement. Ça passe pas mal par la psychologie. En tout cas, c'est très sympa. On nous laisse présager une suite, alors j'espère qu'on l'aura.
D'accord.
Mais alors, je ne sais pas du tout s'il y a une suite qui est sortie aux États-Unis. Ouais. Reste après les dessins de Simone Bianchi, enfin le graphisme de Simone Bianchi, qui rebutera certains, c'est clair.
Oh, moi j'adore.
Parce que c'est très fouillé, peut-être même un peu trop, des fois. Ouais. Ce qui fait qu'on a un aspect presque brouillon sur certaines planches, alors que c'est juste qu'il y a énormément de détails, et qu'il y a un côté quand même assez statique.
Oui, mais pour une ambiance mythologique comme ça, asgardienne, on va dire.
Et puis surtout prise dans l'hiver, quoi.
Oui, je trouve ça très très bien adapté. Enfin, je l'ai pas lu, hein, mais je pense que je pourrais aimer effectivement ce TPB, enfin ce comics. Mais par contre, Robert Roddy, donc une bonne surprise quand même.
Ah ouais, là, c'est vraiment très sympa. Il maîtrise bien le langage à la Thor, en tout cas en VO,
ouais.
Parce que je l'ai lu en VO.
Ouais.
Et non, je franchement, bonne surprise. Je sais pas trop quoi m'attendre. Je l'ai vraiment lu presque à reculons parce qu'il fallait qu'on en parle. Et je vous avouerai que pour les premières pages, voire même le premier numéro, j'étais pas super séduit. Et puis ensuite, ça a coulé, quoi. Ça passait pas mal. Mais vraiment, il faut du temps pour le lire. C'est très très long à lire.
Et rappelons, si j'ai les bons prix sous les yeux, parce que je ne l'ai pas pris moi en VF, j'ai hésité à me prendre ce volume-là, mais vu ce que tu m'en dis, peut-être que je vais le prendre. Parce que il coûterait que 12 euros, je lis.
12 euros, 144. Je passais à 100%.
Ouais. Mais en plus, avec quand même un pavé à lire. Donc, pas mal, quoi. Ouais. Bonne surprise.
Bonne surprise, très bonne surprise. On va passer maintenant à la fin de nos reviews, au bloc d'essai, et on commence par la grosse sortie du mois, le Justice League à tout prix. Non, c'est pas vrai.
Ah d'ailleurs, on peut le dire, hein, la deuxième partie est sortie.
La deuxième partie est sortie, bon bah pour ceux que ça intéresse.
Voilà, parce qu'ils l'ont fait en deux parties quand même.
On n'en dira pas plus pour ceux que ça intéresse. La grosse sortie du mois, c'est le Brightest Day numéro 1. Qui est donc le début de cette maxi-série sortie aux États-Unis sur l'équivalent d'un an, en alternance avec une autre série qu'apparemment nous n'aurons pas en français, malheureusement.
Ouais.
Justice League Generation Lost. Donc bah TPB hein, les amis, parce que ça reste très très bon.
Ah bah Justice League Generation Lost. Justice League Generation. Oui.
Pour moi est meilleur que Brightest Day, mais.
Oui, mais moi, pour moi aussi, oui. Et
Brightest Day est bon, hein, voilà. Mais Justice League Generation Lost est encore meilleur.
Meilleure surprise, ouais.
Donc, nous avons les épisodes numéro 0 à 3, puisqu'il y avait un numéro 0, 128 pages, 5,60€. Pareil, il y a encore une bonne affaire. Puisque, à la fin de Blackest Night, donc le mois dernier, nous avions vu que 12 super-héros, ou super-vilains, bien sûr, étaient revenus à la vie.
Oui.
On va pas faire la liste complète, ça va prendre trop de temps. Je vais peut-être aussi commencer par donner les crédits, en fait.
Oui, Jeff Jones, Ivan Reitz. Jones
et Peter Tomasi, au dessin.
Ah oui.
Au scénario, pardon. Alors, au dessin, on va retrouver pas mal de monde. Hein. On a Evan Reese pour les principalement, mais on a aussi Patrick Gleason, Ardayan Sayaf, Scott Clark et Joe Prado. Je vais pas citer les encreurs, désolé, mais il y en a 5 ou 6 aussi.
Bon, des habitués dans l'ensemble, au fait.
Ouais, voilà, bon, des gros noms de chez DC. Et donc, dans Brightest Day, on va suivre un petit peu, pas tous les protagonistes, mais une bonne partie des protagonistes, et voir comment ils gèrent déjà leur retour à la vie.
Alors. Oui.
Pour certains, ça va être un très gros problème, comme pour Deadman, par exemple.
Ouais. Et sans mauvais jeu de mots, puisqu'on a parlé de Generation Lost, ça me fait penser à Lost, parce qu'on se demande pourquoi ces 12-là, pourquoi sont-ils revenus, et voilà, en fait, c'est un petit peu le pitch, l'interrogation, la grande question de départ, quel est le rapport avec aussi cette fameuse lanterne blanche.
Et puis, tout va pas forcément bien se passer pour certains, puisque, par exemple, Aquaman, qui est revenu à la vie, a toujours son pouvoir sur les créatures des mers, sauf qu'il attire que les créatures mortes.
Ouais.
Donc un petit rappel à Blackest Night, bien évidemment.
Un petit rappel sympathique, qui fait plaisir. Ouais.
On a Hawkman et Hawkgirl qui vont se croire libérés de leur malédiction, puisque la malédiction faisait qu'à chaque fois qu'ils tombaient enfin amoureux, ils se faisaient tuer et le recommencer dans une autre vie était réincarné. Donc là, ils sont enfin libérés de leur malédiction.
Ça avait un petit côté Tex Avery ou...
Un petit peu, ouais.
Ou dessin animé, enfin Bibi Pied de Coyote, quoi. Le côté « je t'aime et puis je me fais tuer ».
Alors, le sont-ils vraiment libérés? Hein, ça vous le verrez, pareil, dans les numéros de Brightest Day. On a Martian Manhunter qui va essayer de faire reprendre la vie sur Mars.
Ouais, mais en fait, c'est-à-dire, ils se lancent tous dans une espèce de mission personnelle, ou en tout cas, ils essayent tous de revenir à leur vie d'antan avec, en cadeau, des changements draconiens dans leur vie, quoi. Et au fait, les choses ne se déroulent pas du tout comme prévu pour chacun d'entre eux, quoi. En fait, il y a toujours des petites surprises. Ouais.
Alors bon, certains des 12 personnages, vous ne les verrez pas. Par exemple, Maxwell Lord.
On le voit dans l'épisode 0, par exemple.
On le voit dans l'épisode 0, mais on le verra quasiment plus par la suite, puisqu'il sera plus dans Justice League Generation Lost.
Ah bah, totalement, c'est la star, même.
Voilà, il y aura d'autres personnages comme ça que l'on ne verra pas forcément dans la série Brightest Day. Là, on va suivre, c'est vrai que principalement, on va suivre Firestorm, on va suivre Aquaman, on va suivre Martian Manhunter, Hawkman et Hawkgirl. Et puis je crois que c'est tout. Et puis Deadman, pardon.
Et puis c'est déjà pas mal.
Oui, puisque bon, il y aura d'autres choses hein, qui vont se passer, mais on voit par exemple tout ce qui est arrivé à Star City,
ouais.
La ville de Green Arrow. Il y a vraiment beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment très sympa.
Ça fait penser dans la narration à 52, hein, avec ces espèces de petites scénettes concernant différents personnages qu'on retrouve d'épisode en épisode.
C'était volontaire, hein. C'est vrai que de toute façon DC a toujours voulu recapitaliser sur le succès qu'avait eu 52 en essayant de refaire des séries hebdo. On a eu Countdown, ça n'a pas marché. On a eu Trinity, ça n'a pas marché. Peut-être que Brightest Day et Generation Lost seront les sauveurs pour DC.
De toute façon, on peut le dire. Enfin, je veux dire, on sait très bien ça a fonctionné quand même pas mal.
Ça a vraiment bien marché, oui, effectivement.
Par rapport à l'époque, j'ai envie de dire, parce que évidemment, ces dernières années, malheureusement, on n'est plus au niveau des ventes qu'on avait avant, la crise, etc. La troisième guerre mondiale, enfin tout ça, ça a eu.
On va pas trop parler non plus de tout ce qui est arrivé, puisque on va pas trop vous spoiler, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est super dense, super intéressant, pour qui aime l'univers DC.
Oui. Mais j'ai envie de te dire, même pour qui le découvrirait.
Ça peut être un moyen de découvrir, mais je pense que c'est peut-être pas forcément la chose la plus aisée. Mais c'est vrai que ça peut être un bon moyen de prendre le train en marche, en tout cas. Et de voir que l'univers DC ne se résume pas à Batman, Superman et Green Lantern.
Totalement, là ça montre. Comme 52, de toute façon, ça donne vraiment le. Comment dire, ça un coup de projecteur sur des personnages assez méconnus et qui là prennent une importance capitale et en tout cas importante, on va dire.
L'autre sortie kiosque de DC ce mois-ci, c'est le DC Universe 64. Alors, seulement deux séries dans ce numéro-là. On a le Green Lantern numéro 54 par Jeff Jones, Doug Mankey au dessin, Christian Lamy à l'ancrage. On va passer assez vite dessus. Enfin, il se passe pas mal de choses encore une fois.
Tu l'avais fait, tu en avais parlé dans le wiki.
Dans un wiki à l'époque. Bon, on a Hal Jordan, Carol Ferris et Sinestro qui vont découvrir la fameuse lanterne blanche que cherchait à détruire Necron.
Ouais.
Et qui va leur fournir une vision d'une nouvelle mission à accomplir, en quelque sorte. Et on va enfin découvrir toutes les fameuses entités.
Oui, c'est vrai que... Mais hormis ça, c'est un petit peu un épisode fill-in avec notamment Atrocitus qui se retrouve dans le métro.
Atrocitus qui deviendrait un super-héros terrien, peut-être ?
Ouais, à voir... Enfin, de toute façon, on voit que la deuxième partie, ça va être aussi être un petit peu du feeling. Bon, c'est sympa, mais c'est pas indispensable.
Il y a aussi, pour ceux qui auraient suivi Green Lantern Corps, donc en France pas beaucoup, le retour de Sodamiat.
Voilà. Le soldat inconnu.
Oui, voilà. Mais sous quelle forme, comment, pourquoi ? On verra bien. Mais ça laisse présager des choses intéressantes. On va passer au gros du numéro maintenant, c'est les épisodes de la Justice League, les épisodes 42 à 44. James Robinson au scénario, Mark Bagley au dessin, Norm Rapmund et Rob Hunter à l'ancrage.
Des épisodes un peu plus épais qu'à l'accoutumée.
Oui, puisqu'on a l'épisode 43 qui est un double épisode, puisqu'il fait partie du mini-event, si on peut dire ça.
Ah, mais de toute façon, les trois font... Ah non, peut-être pas, non, je dis des bêtises.
C'est vrai qu'ils sont un peu plus gros, mais on a surtout ce numéro 43 qui est beaucoup plus long.
Ouais.
Bon, il faisait partie de l'event Rise and Fall, dont on a eu un petit bout dans le numéro spécial, là, Justice League à tout prix, je sais pas quoi. Enfin, Cry for Justice, quoi.
Cry for Justice, ouais. Que t'as pas lu, du coup.
Non, je n'ai pas lu, non. J'ai commencé.
T'aurais peut-être aimé du coup alors, puisque là tu as plutôt apprécié ces trois épisodes.
Alors oui, ces trois épisodes, moi j'ai plutôt apprécié. C'est-à-dire qu'on a il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais alors c'est vraiment pas les épisodes les plus faciles et je ne comprends pas pourquoi on les publie en français. Parce que pour des gens qui ont découvert DC uniquement avec la VF, et alors principalement ces dernières années par Panini, moi je leur dis bonne chance.
Même moi, j'ai pas tout capté alors que je lis DC Universe depuis le début.
Il y a un paquet, et un gros paquet de références à tout l'univers DC dans l'ensemble, à des périodes telles que le Golden Age, le Silver Age, et même ce qui se passe entre les deux. C'est très compliqué pour qui ne connaît pas. Quoi. C'est vraiment... j'ai du mal à comprendre le choix de Panini de nous publier ça. Parce que il va manquer plein de choses. Quoi. Je veux dire, en France, qui sait qui sont les Challengers of the Unknown ? Qui sait qui sont les Black Hawks ? Juste incompréhensible.
Oui, non, mais moi, pareil, j'en ai vaguement entendu parler, mais en fait, ce que je reproche à ces épisodes, parce que moi, j'ai pas autant aimé que toi, hein, je me suis un peu ennuyé à la lecture de ces épisodes, c'est-à-dire que On a l'impression que James Robinson commence à placer une intrigue et puis qu'il passe complètement à autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien quasiment entre les trois épisodes finalement.
Ah si, il y a des liens en fait, mais...
On a l'impression qu'ils sont tie-in à d'autres choses à chaque fois.
Mais c'est le cas.
Tie-in à des trucs différents.
C'est le cas.
Mais oui,
c'est totalement le cas. Et c'est là, même James Robinson se moque de ça d'ailleurs. Puisque il fait une... Parce qu'on va avoir plusieurs compositions de Justice League dans chaque épisode, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment la Justice League qui va changer de membre dans chaque épisode. Et... au moment, justement, dans le deuxième épisode, l'épisode 43, au moment où tout le monde s'en va, c'est vaguement expliqué chacun pourquoi il part, mais c'est vraiment très rapide. Et c'est vraiment une façon pour Robinson de se moquer de l'éditorial de DC qui dit non, tu peux pas faire ça avec tel personnage parce qu'il fait ça, non, tu peux pas faire ça avec tel personnage parce qu'il est parti ailleurs et tu peux pas l'utiliser parce qu'il est dans telle série, machin.
Ouais.
Parce qu'on a l'épisode 42 qui est stand-alone, on va dire, qui est à lui tout seul, mais on a l'épisode 43 qui est tie-in, donc à Rise and Fall, on a l'épisode 44 qui est tie-in à Brightest Day, enfin, le pauvre, comment veux-tu qu'il s'en sorte? Il a le même problème que Dwayne McDuffie.
Exactement.
Il arrive quand même à retourner la situation, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, avec ces épisodes-là, alors c'est vrai que le début était très très mal parti. Là, avec ces épisodes-là, il remonte vachement dans mon estime. J'ai l'impression de relire le James Robinson de l'époque Starman.
Ouais, mais par contre, encore une fois, dans la Justice League, on a changé la composition de l'équipe après Cry for Justice. On a encore une nouvelle équipe. Enfin, je veux dire, tous les 6 mois, on a une nouvelle composition, quoi.
Oui, c'est clair. Mais il se fait plaisir parce qu'il ramène des personnages qu'il avait utilisés dans Cry for Justice, puisque c'était le scénariste, notamment Kongorilla et le nouveau Starman, le Starman à peau bleue. Voilà, moi je trouve que ce sont des bons ajouts à l'équipe. Bon, c'est vrai qu'actuellement l'équipe tourne sur 4 persos, donc ça fait pas beaucoup. Mm-hmm. On verra qui va les rejoindre dans les prochains épisodes. On a aussi donc la JSC qui va jouer un rôle relativement important, j'imagine, dans les épisodes à venir. Il se passe vraiment... il se passe plein de trucs, quoi. On a toujours cette histoire avec les artefacts dont on avait eu vent dans les derniers épisodes.
Ouais.
On a des vilains qui ont la technologie des New Gods. Donc là, c'est pareil, pourquoi et comment, on n'aura pas la réponse ici, mais en tout cas, ça laisse poser plein de questions.
Oui, puis on a ce gros tie-in à Justice Society, quoi, ce qui va se passer dans Justice Society. D'ailleurs, toute la fin du run de... Alors, comment il s'appelle ? Guggenheim, qui va arriver sur Justice Society après Willingham.
Ouais.
Au fait, parlera de ce qui se passe avec Obsidian.
Oui, parce qu'il va y avoir de toute façon des crossovers entre les deux.
Voilà. Crossover que nous n'aurons pas en français, et à mon avis, c'est pas...
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils continuent de publier Justice League chez Dargo. Ils sont sûrement obligés de publier les
premiers épisodes. C'est tellement mineur tout ça que je me demande s'ils ne vont pas faire l'impasse, hein, quand même.
Ouais. Moi, ce qui m'inquiète... Là où je me suis vraiment posé le plus de questions, c'est pourquoi ces vilains ont la technologie des New Gods? Comment ils ont récupéré ça? Puisqu'on sait très bien que les New Gods sont morts après Final Crisis. Est-ce que c'est le début du cinquième âge? Robinson s'est attaqué vraiment à quelque chose d'assez ambitieux, je pense. Le passé avec le présent et peut-être le futur. Voilà, pour moi, ça reste très intéressant, mais je pense qu'il faut avoir quand même de très solides bases en DC-verse pour pouvoir arriver à apprécier.
Enfin, cela dit, je trouve ça plus compréhensible que Final Crisis. Par Morrison, donc c'est de dire à quel point Final Crisis était brouillon, parce que là je m'y retrouvais plus quand même dans ces épisodes là
mais je comprends, moi, que ça plaise pas, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment particulier, quoi.
C'est particulier, mais au fait, ce qu'il faut dire, c'est que Panini, à mon avis, c'est pas à creuser la tête. Ils connaissent pas forcément les séries qu'ils publient, donc ils regardent vite fait, ils se disent bon, Justice League, c'est du Batman, c'est du Superman, c'est du Wonder Woman, et pas du tout. Ça fait des mois que c'est plus le cas.
Puis ils regardent aussi au niveau des noms, quoi. Enfin, ils ont vu James Robinson, ils savent que ça marche sur Starman, que c'est un mec qui est vachement insensé, donc voilà. Parce que rappelle-toi le passage où c'était pas James Robinson, entre Dwayne McDuffie et James Robinson, il y avait eu un passage, et ça, on nous l'a zappé en français.
Oui, c'est exactement. De toute façon, ça arrive sur plein de titres Panini, rien à voir, mais par exemple, Hellblazer, après Mike Carey, il y a eu tout un run par une scénariste, je crois, qui en a fait une vingtaine, et on les a jamais eu en français, et Panini ne les sortira pas, de toute façon. On est directement passé en Diddy Gull.
Hellblazer, dont sort un volume, hein, ce mois-ci.
Des anciens épisodes, donc il y avait déjà deux volumes, là c'est le troisième.
Ouais, voilà, dans la collection Vertigo Cult.
Voilà, et des épisodes de Garcinis, donc là, par contre, ça m'intéresse énormément. Le bouquin a été repoussé, d'ailleurs.
Bah oui, c'est pour ça que tu n'as pas pu le lire, puisqu'on enregistre le 27 et il sort demain.
Voilà.
Il devait sortir le 21 au départ, mais voilà.
Et ouais.
Tant pis. Bon, il y a pire, hein, nous avons le Punisher, Max, numéro 2, qui ne sortira pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Il sort le 12 octobre, finalement.
Oui, je vais prendre mon mal en patience parce que ça, je le lirai forcément.
Moi, je l'ai déjà lu et c'est une tuerie. Ce sont de... avec jeu de mots. Hein.
Mais putain, mais c'est alors donc Jason Aaron est décidément très très bon sur des trucs qui sont pas vraiment du super-héros.
Bah, en fait, quand il y a des flingues, je pense que quand il y a des flingues, il doit être bon, quoi.
Oui, oui, oui. Quand c'est des trucs bien bien crades, bien violents. Est-ce qu'il y a encore le truc des yeux?
Mais écoute, non, j'ai pas eu de scène d'œil, je crois pas.
D'accord. Bah, quand même, il faut. Heureusement qu'il n'en place pas une par arc, parce que ça ferait un petit peu redondant au final.
De toute façon, on en reparlera le mois prochain. Donc, pour ce DC Universe 64, ben, je dirais que pour moi, il est très bon, mais à réserver un public averti, et cette fois-ci averti de connaisseurs.
Je pense que. Pour moi, il est. Pour moi, il est tout à fait. Malheureusement, enfin, pour moi, il est tout à fait dispensable.
Ouais.
Celui-là. D'autant que Green Lantern, il se passe pas grand-chose. On peut rater ce DC Universe. Sans problème. Disons que l'incontournable là, bah, du coup, c'est Brightest Day. Ah, c'est et Brightest d'ailleurs, Day. Prenez-le vite parce que il est déjà très très chaud à trouver hein, dans les kiosques.
Ouais, mais surtout si vous vous mettez à DC, évitez le DC Universe. Si vous êtes vraiment un débutant DC, évitez-le parce que là.
Oui, parce que là vous n'allez rien comprendre. Déjà Brightest Day, ça va être chaud quand même.
Ouais, mais c'est vrai que bon, on peut arriver à le lire effectivement. Ouais.
Et arriver à comprendre quelles sont les motivations des protagonistes.
On apprécie plus quand on connaît, mais c'est lisible quand on ne connaît pas.
Comme 52.
Et c'est donc la fin de notre 60e numéro de Comic City. Putain, 60 déjà.
Ouh. Ouais, 60 et ça me fait bailler, tiens, tellement...
ça passe vite. Bon, on se retrouve donc le mois prochain pour, encore une fois, le mois de sortie VF, hein, comme toujours.
Ouais.
Et
avec les rubriques habituel.
Oui, la rubrique habituelle, bien sûr. Le débat, la chronique de Jean-Lo, donc son Back to the Comics.
Mm-hmm.
Puis,
puis peut-être d'autres surprises, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises sur Comic City, et c'est ça qui est formidable.
On n'est jamais à l'abri de... Attention.
Oui, à l'abri de rien du tout, oui. De bonnes comme de mauvaises surprises. Surtout durant les enregistrements.
Oui, 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 oui. Par exemple. Et en espérant que je ne sois plus malade le mois prochain, parce que là, ça me ferait flipper quand même.
Ou que tu sois mort, tout simplement.
Oui, bah je me le souhaite pas moi-même, mais bon.
Ah bah écoute, je vais te le souhaiter dans ce cas-là.
Oh bah ça, écoute, c'est très gentil,
Mais de rien, ça me va dans ton cœur.
Ça me touche.
ça ne veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. C'est encore mieux.
Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez laisser des commentaires sur le site. Retrouver les derniers épisodes sur iTunes. Et puis d'ici le mois prochain, plein de bonnes lectures, plein de bons comics, plein de bonnes choses. Je m'en frappe la cuisse. La quiz, tu vois. Voilà. C'est la fin du podcast, je dis des conneries. Je vous souhaite une bonne mort, Vatus.
Oui, d'accord.
Dit-il en se reniflant.
Mmh. Eh bien, qu'ajouter de plus?
Je te laisse te finir avec tout ça, tu vois.
Oui, oui, bon, écoute, je m'en pète la cuillère, voilà, c'est une expression que j'ai inventée il y a quelques années. Donc, je terminerai là-dessus. Ce sera le mot de la fin du Comic City.
Eh bien, au mois prochain, tout le monde.